Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast. Toujours pas de nom à ce podcast, peut-être qu'on l'appellera le podcast du Baud. Je suis en compagnie d'Emmanuel. Salut Manu, comment tu vas ?
Écoute, grâce à toi, hyper bien.
Alors, pour vous présenter, merci Manu d'être là. Pour vous présenter Manu, je vous fais un petit historique. Manu est un ancien ou toujours SDF, tu dis toujours SDF, ou en tout
disons
cas,
c'est
là, oui, moins maintenant, on va dire.
Voilà, moins maintenant, grâce à toi et Jonathan, les deux mousquetaires qui m'ont tendu la main, les deux mousquetaires de VA qui ont été hyper généreux et m'ont tendu la main. Un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, que je vais évoquer avec toi,
ouais.
Mais beaucoup mieux maintenant, grâce à vous deux. Beaucoup
ouais.
Mieux maintenant. Mais c'est pas du tout, je dirais, terminé. C'est-à-dire que c'est une affaire dont on se sort, je crois qu'on décroche plus facilement de la drogue que de la rue.
Ouais.
Et la rue, c'est quelque chose qui te colle à la peau et c'est en train, petit à petit, étape par étape, de se résoudre, je le répète, grâce à vous deux, mais j'en suis pas encore sorti.
Oui, alors je mets un peu de contexte. Au départ, avec Manu, on se connaît parce que tu nous avais envoyé un email.
Exactement.
Un mail sur la rédaction de Valeurs Actuelles en disant que voilà, tu vas nous raconter ça, mais que, voilà, que tu étais à la rue, un peu en détresse depuis quand même un certain nombre d'années.
18 mois.
18 mois. Et donc à ce moment-là, nous, bah, on est parti avec notre caméra. En plus, c'était à Paris, donc c'était pas très loin. Il n'y avait aucune raison de ne pas se déplacer pour te rencontrer, ne serait-ce que pour te rencontrer. Bon, on est venu directement avec la caméra et on a enregistré directement une interview. Et voilà, on t'avait proposé à ce moment-là que tu me fasses une cagnotte parce qu'on savait que le public voudrait t'aider. Une interview magnifique hein, où tu as raconté ce parcours. Et c'est pour ça que tu es là, c'est pour un peu raconter ce parcours et pour surtout prendre des nouvelles de toi. Parce que comme vous le savez maintenant, je l'ai expliqué dans le pré-épisode, j'étais licencié de Valeurs Actuelles, je reviendrai sur tout ça. Mais j'aurais bien aimé faire la suite de cette interview. D'un peu de savoir où t'en es sur VA, mais bon bah ça sera pas le cas, ce sera sans doute peut-être aussi ailleurs dans le futur média où je vais travailler, ça je peux pas encore vous dire, mais ce sera bien pour bientôt, d'ici la fin du mois d'août. Mais voilà, comme ça on va prendre des nouvelles de toi Emmanuel, mais d'abord est-ce qu'on peut revenir un peu voilà sur comment on a fait cette rencontre, dans quelle situation t'étais quand on s'est rencontrés, voilà, en février dernier, c'est ça ?
Exactement. Voilà. Et c'est quelque chose d'absolument miraculeux. Au point où j'en étais arrivé, au stade où j'en étais arrivé, je me disais, et je te le dis là, à l'époque aussi, je l'avais évoqué, je te dis ça sans essayer de tirer les larmes, sans faire du Zola ou du Hugo, si tu veux, bas de gamme, mais j'en étais vraiment arrivé à ça ou à la balle dans la tête. C'est-à-dire que c'était vraiment l'extrême limite. Il s'est passé ce jour-là que je me suis dit, je suis à bout de tout. La seule chose qui me reste à faire, c'est de tenter quelque chose que j'ai jamais tenté. Et je me suis dit, pourquoi ne pas contacter quelqu'un en dehors des institutions, en dehors de ceux qui légalement sont au pouvoir, ceux qui sont en charge de nous aider, c'est-à-dire nous, l'armée des ombres, les SDF, on est quand même 330 000 en France. Il y a 330 000 qui battent le pavé en France. Je ne parle pas des gens sous le seuil de pauvreté, c'est encore autre chose. Je parle vraiment des gens qui sont à la rue, qui ont tout perdu, qui sont dehors. Et l'État ne fait absolument rien pour eux. Et en ayant fait le tour de tout ce petit monde, en ayant vu que toutes les portes étaient fermées, qu'il ne se passait strictement rien, je me suis dit, au fond du trou, je me suis dit, il ne me reste rien, sauf quelque chose d'absolument iconoclaste, quelque chose d'absolument inhabituel, contacter des gens pour lesquels c'est un sujet peut-être pas si extérieur que ça, parce que c'est des gens qui sont concernés par l'humain, et j'ai eu raison. Et donc j'ai envoyé ce mail à la rédaction de VA, je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez. C'était comme le passager du Titanic, hein, il est en train de couler, il se dit, je jette une bouteille à la mer, ça donnera strictement jamais rien, parce que je me doutais, et vous me l'avez confirmé par la suite, que vous deviez recevoir des dizaines, des centaines de mails. Et la chose hallucinante, comme quoi il y a un Dieu, comme quoi il y a un karma, il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse, moins d'une semaine après, le téléphone sonne et c'est Jonathan, donc ton collègue, qui m'appelle en me disant qu'il a bien eu le mail et qu'il aimerait qu'on se rencontre. Et ça, je l'oublierai jamais, il me dit « j'aimerais bien qu'on se voit très très vite ». Alors je dis « ok, moi je suis open, vous me dites quand ça vous arrange
ouais. ».
Et moi, de 20 minutes après, il me rappelle en me disant « si on faisait ça tout de suite ». Et là, je suis tombé doublement dénu parce que non seulement vous répondiez, mais par-dessus le marché, ça se faisait dans la foulée. Et après, donc, les choses se sont engrenées. Tu étais là avec ton micro, Jonathan a installé la caméra et la prise de son. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que, je le répète encore une fois, dans une société où on est absolument tous délaissés, tous laissés pour compte, quand je dis tous, je parle de nous, donc les parias du trottoir, il n'y a que vous qui avez répondu présent. Toutes les portes se fermaient, il n'y a que vous qui avez dit, ben voilà, on est là, on t'écoute, vas-y, on te tend un micro, dis-nous ce qui t'arrive. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. On pourra dire ce qu'on voudra par rapport aux journalistes de V1, on pourra dire ce qu'on voudra par rapport à vous en tant que défenseur d'une ligne éditoriale. Moi, je suis là pour dire la vérité. C'est tout, je suis là pour dire ce qui s'est réellement passé. Et par rapport à des institutions, par rapport à des gens qui se sont foutus de nous et qui continuent à se foutre de nous, parce que le SDF, c'est quelqu'un de bien pratique, c'est quelqu'un qui permet à un candidat électoral de récolter des votes, parce qu'il promettra dans son programme de tout faire pour éradiquer la pauvreté, c'est quelqu'un qui permet aux associations de récolter des subventions, mais derrière, il n'y a rien. On n'a pas envie, ils n'ont pas envie qu'on disparaisse. Parce qu'on est les idiots bien utiles d'une société. On a notre place au bas de l'échelle et personne ne veut qu'on disparaisse. C'est comme ça que fonctionne une société. Il y a des différences de classe. Nous, on est au plus bas de l'échelle et on est utile. On est utile pour tous ces gens qui se servent de nous, qui font du fric sur notre dos en étant dans une association ou qui se font un gain électoral en parlant de nous, en se servant de nous, pour récolter des voix. Mais quelle que soit l'étiquette à gauche ou à droite, aucun de tous ces gentils pèlerins n'a envie qu'on disparaisse.
Oui, parce que tu parles des gens qui leur permettent de créer des associations, mais qui finalement n'ont pas l'utilité ou du moins l'efficacité qu'ils devraient avoir ou pas les bonnes méthodes. Et je me rappelle dans l'interview, je ne sais pas si on en avait parlé dans l'interview ou en discutant, mais oui, il y a certaines associations sur lesquelles tu as quelques petites histoires et ça, on va en parler, ça va être intéressant dans les méthodes, etc. Et oui, alors on a répondu assez vite parce qu'il faut dire que dans ton message, tu nous racontais on en reparlera aussi d'un ami d'infortune qui est mort de froid dans une nuit d'hiver, il me semble, aux Invalides.
Totalement.
Donc nous, on s'est dit, il y a peut-être besoin d'aide de façon urgente. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver du coup cette interview sur la chaîne de VA+, hein, qu'on avait à l'époque. Il y a toujours la cagnotte qui est là. Donc bon, si vous voulez aider Manu, qui n'est pas encore parfaitement tiré d'affaire, même si bon, t'es sur la bonne voie. Mais voilà, la vidéo est toujours disponible si vous voulez avoir un peu le parcours de Manu, mais sur lequel on va revenir. Et d'ailleurs, on fait aussi cet épisode parce que là, toi, t'as écrit un livre pour raconter tout ça.
Voilà, parce qu'en fait...
Et si certains de vous ont des contacts dans l'édition, entrez en contact avec Manu. Est-ce que tu peux redonner ton mail, peut-être ?
Oui, c'est hyper simple. C'est yanlambrette@yahoo.fr. yanlambrette@yahoo.fr.
Et ben voilà, bah donc si vous connaissez des gens dans l'édition, moi j'ai quelques contacts à donner à Emmanuel, mais voilà, le manuscrit est écrit, on l'a sous la main là, mais de toute façon l'idée c'est pas de spoiler le livre, de le divulgâcher, mais c'est aussi pour éventuellement aider Manu à trouver un éditeur, ce serait génial. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre, Manu ?
Ben en fait justement... C'est tout ce que j'ai pas pu dire durant l'interview parce qu'on était limité par le temps, parce qu'il y avait un montage à faire et puis aussi surtout parce que c'était peut-être pas, je dirais, l'instant. Mais disons que dans l'interview, il y a à peu près 5% de tout ce que je raconte dans le livre. Parce que ce livre, il a une raison majeure, il a une raison primordiale. Vous m'avez permis d'aller mieux depuis qu'on s'est vu en février. Et la seule et unique chose que j'avais en tête... Le minimum que je pouvais faire, c'était de ne pas oublier tout ce que j'appelle mes frères et mes sœurs de misère qui sont encore dehors, qui n'ont pas eu la chance d'avoir affaire à vous et qui, eux, continuent à crever de la différence générale. Et aussi bien, je sais que la vidéo est importante, aussi bien je sais que c'est le siècle de l'image et que sans l'image, on ne peut rien faire. Malgré tout, je sais aussi que les événements se bousculent et que un événement chasse l'autre, que la vidéo, d'ici quelques temps, sera sortie des esprits. Par contre, un bouquin, même si c'est dérisoire de le dire, ça reste quand même une trace physique matérielle. Ouais. Et je veux raconter tout ce que j'ai vécu, je veux raconter tout ce que ceux autour de moi ont vécu, continuent de vivre, tout ce que ces hommes, ces femmes, quelle que soit leur tranche d'âge, parce que c'est comme les lecteurs de Tintin de 7 à 77 ans, dans la rue, on trouve tous les âges. Là où je me trouvais, sur le banc où je dormais, au Square Santiago du Chili, dans le 7e arrondissement, avenue de la Motte-Piquet-Grenelle, il y avait une famille. J'ai vu une famille qui est venue par intervalles réguliers, où il y avait le père, la mère et deux enfants bas âge. Tous les deux travaillent, mais n'ont plus les moyens de vivre, de se défendre. Et là aussi, je fais une petite parenthèse, je fais aussi ce livre pour essayer de briser un peu l'imagerie d'Épinal néfaste qui nous concerne. Pourquoi ? Je dirais ça d'une façon simple, c'est que la société évolue plus vite que les mentalités. Ce que je veux dire par là, c'est que l'imagerie d'Épinal du SDF, c'est le clodo, j'aime pas, je hais viscéralement ce terme, c'est le clochard à l'ancienne, alcoolique ou drogué, qui est là, je dirais, parce qu'il s'est laissé aller, qu'il a envie d'être là. Alors que la réalité des choses, c'est que de plus en plus, on voit des gens qui sont simplement victimes d'une pression économique effroyable, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à payer les charges. Ils se retrouvent débordés et ils se retrouvent à la rue. Mais ils ne sont ni drogués, ils ne sont ni alcooliques, et ils ont perdu leur logement, comme toi, comme moi, perdraient leur voiture. Donc on ne peut pas les juger. Mais, dans l'esprit, la majorité, la tendance populaire, c'est de voir le SDF comme, je dirais, un type qui est allongé sur le trottoir avec son litron, qui passe sa journée à boire et qui n'a aucune autre ambition que de rester là sur son carré de bitume. Et c'est pour ça aussi que j'écris ça, que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour qu'on se rende compte que les gens qui sont dans la rue, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais tant qu'il y aura cette vision des choses, tant qu'il y aura cette perception du SDF comme quelqu'un qui est fracassé, qui est brisé, qu'on a besoin de rééduquer, on n'en sortira pas. Pourquoi ? Parce qu'on se dira, c'est comme une maladie qu'on peut traiter, mais on a le temps. Alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement des gens qui ont besoin, dans l'urgence, de retrouver leur statut. Et je répète encore une fois, quand on perd sa voiture, on ne va pas dire à la personne qui a perdu sa voiture, « Viens mon ami, je vais te rééduquer, parle-moi de toi, comment ça va ? Tu n'as pas besoin de suivre une thérapie ?» Non, on va lui dire, « Écoute mon ami, je te file une adresse, comme ça tu vas pouvoir te racheter un véhicule. » C'est juste de ça dont on a besoin, à toi, qu'à te murer à toi.
Mais d'ailleurs, quelle est ta vision, toi, de ces... Parce que tu parlais du cap de la désespérance dans l'interview, je me rappelle, et qu'est-ce qu'on peut faire des SDF qui sont dans des situations vraiment très compliquées, que ce soit l'alcoolisme ou la drogue. Parfois, on a la sensation que c'est des gens qu'on ne peut pas sauver. Et je dis ça parce que ce serait une fatalité ou quoi, mais il y a cette sensation-là, et les gens n'osent même plus approcher parce qu'ils sentent très forts, parce que voilà, ils ont perdu beaucoup de dignité, même s'ils ont toujours cette dignité d'être humain, et ce que la société oublie aussi. Mais oui, parce que parfois, voilà, ils se sont urinés dessus, ou pire, ils se baladent le froc à l'air. C'est une situation réelle. Comment on fait avec des personnes comme ça, toi qui as été de l'autre côté de la barrière, quoi ?
Eh bien, c'est simple, tu les prends avant qu'ils arrivent à cet état-là. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu as tout à fait raison. Mais tu as exactement raison, parce que la population qui se trouve dans la rue, sur le trottoir, la population des SDF, est très large. Comme je vais te le dire, c'est un éventail gigantesque. Et effectivement...
Ouais, on réalise pas toujours ça, c'est ça.
Et effectivement, autant, je te parlais de cette famille qui était à côté de moi au Square Santiago du Chili, autant il y a ce cas de figure de gens qui sont simplement dépassés par la réalité et qui sont broyés par les événements, mais autant aussi, on voit beaucoup, comme tu le dis, de personnes errantes, de fantômes, de zombies, qui sont dépendants de leur dose d'alcool ou de leur pipe de crack. On est entièrement d'accord. Mais tu sais comment ça arrive, ça ? Parce qu'ils ont atteint le dernier palier. Avant qu'ils en arrivent là, avant que ce soit des déchets humains, entre guillemets, parce que je déteste ce terme, mais je décris simplement une réalité, une apparence extérieure. Avant qu'ils en arrivent à ce stade, ils sont passés par tous les différents paliers. Et si moi, je n'avais pas eu la chance de tomber sur vous, un jour je leur aurais ressemblé. Et c'est ce que j'explique dans ce bouquin. C'est qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que tous ces gens que l'on pointe du doigt, qui sont dans cette situation, c'est parce qu'avant, on n'a rien fait pour eux, on les a laissés sombrer petit à petit. Et arrive le moment très très vite, très très rapide, où tu te dis, mais pourquoi je continuerai à prendre soin de moi ? Je suis dehors. Pourquoi j'éviterais de me pisser dessus ? Pourquoi j'éviterais d'aller pisser contre un arbre ? Pourquoi j'éviterais de me casser la tête avec un litron de rouge ou avec une pipe de crack ? Si de toute façon, tout le monde s'en fout de moi, qu'est-ce que je ferais de la bienséance ? On me traite encore moins bien qu'un chien. Parce que les chiens, ils ont une chance énorme. Il y a des associations. Dans Paris, tu ne verras jamais aucun chien errant. Parce que les associations sont là pour les récupérer. Mais nous, il n'y a rien. Nous, on est dehors. Et on nous laisse arriver à ce stade. Et ensuite, on nous dit, bah, tu vois, pourquoi je m'occuperais de ce mec-là ? Tu as vu dans l'état dans lequel il est. Et je répète que sans vous, sans toi, sans Jonathan, sans le coup de main parrainé par Geoffroy Lejeune, parce que le jour, je n'oublierai jamais, quand je suis arrivé à VA, j'ai croisé Geoffroy Lejeune, ce type absolument hallucinant. J'ai une petite anecdote, je sais que ce n'est pas le sujet, c'est parce que tu me demandais. Mais c'est vraiment la signature des grands, je le dis d'ailleurs dans le bouquin. Les obscurs, les anonymes, quand ils te voient, ils ont l'impression que la terre entière les connaît, donc ils imaginent que tu connaisses leur prénom et leur nom. Geoffroy Lejeune, lui, la terre entière le connaît, et quand il est arrivé, il a dit « Bonjour, je m'appelle Geoffroy Lejeune ». Et j'ai trouvé ça fabuleux, parce que ça décrivait bien le personnage. Toute l'humilité et la générosité du personnage, il est conscient de son statut, mais malgré tout, il se présente. Et je dis ça, je dis pas ça pour rien.
Je confirme ce que tu dis, bien sûr.
Je dis ça dans le sens où, en fait, des gens qui n'avaient rien, je dirais a priori, à faire avec des gens comme moi, vous vous, en l'occurrence, dans les journalistes de Valeurs Actuelles, vous êtes intéressé à mon cas. Et sans vous, j'y serais encore dans la rue. J'aurais peut-être atteint ce palier dont tu me parles. Je serais peut-être d'ici quelques années ravagé par l'alcool et je m'en foutrais complètement. Mais encore une fois, sans, je dirais, trouver toutes les excuses au milieu à l'armée des ombres qu'on constitue, je dois dire effectivement que la société fait tout pour nous encourager dans ce sens-là. On fait tout pour nous pousser à être complètement brisés, complètement des loques humaines. Et là, dans ces cas-là, en fin d'année, quand c'est le moment pour les associations de récolter des dons, ben on exhibe le plus pourri d'entre nous, le plus fracassé pour nous dire, ben regardez, le pauvre homme, on est au moment des fêtes de Noël, donnez un petit peu d'argent pour ces gens-là. Et hop, vite, ensuite, on le renvoie sur son coin de trottoir. Et en plus, au passage, on espère bien qu'il sera politiquement correct. C'est-à-dire qu'il n'ouvrira pas sa gueule, qu'il dira rien. Mais moi, je suis tout le contraire. Moi, j'ai encore la paix. Je ne suis pas passé justement par ce cap. Je n'en suis pas encore à ce niveau-là. Et j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai envie de dire, excuse-moi le terme, j'espère que je ne vais pas être censuré. Je sais que c'est un terme trivial, mais j'ai envie de dire que c'est une belle bande d'enculés. Parce qu'ils font tout pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et après, ils se plaignent. Ils nous disent, mais comment on pourrait s'occuper de gens qui sont dans un tel état ?
Quand tu dis que la société fait tout pour qu'on en arrive dans de tels états, t'entends quoi par là ? C'est que ce que tu disais tout à l'heure.
Je vais donner un exemple très clair, très simple.
Souvent, ce qu'on dit, c'est que la société française, et c'est peut-être aussi une des causes du problème, est trop paternalisante. Elle ne laisse pas assez les gens se responsabiliser. Alors, sans doute en amont d'être à la rue, parce qu'à la rue, on a quand même une marge de main-d'œuvre. Bien moins bonne pour rebondir. C'est pourquoi la société pousserait et ferait en sorte que ces gens en arrivent là ?
Parce que justement, j'ai des exemples bien précis et bien clairs. Prenons l'exemple d'une personne qui est donc dans la situation de se retrouver en cas d'exclusion. Un couple comme cette famille, je vais encore prendre le cas de cette famille dont je te parlais. Le père et la mère travaillent et ils ont de plus en plus de charges. Ils ont un loyer qui est augmenté régulièrement, qu'ils ne peuvent plus assumer. Peut-être des emprunts à droite à gauche, des crédits auxquels ils ne peuvent plus faire face. Et au lieu déjà de pouvoir s'en sortir facilement, ils ne voient que cette situation augmenter. Ils se retrouvent dehors. Qu'est-ce qu'ils auront comme situation ? Ils vont aller voir les services sociaux. Ils leur diront « Ah, ben oui, messieurs, dames, mais le problème... » Et alors là, ce que je vais te dire, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, c'est juste un constat. Ils vont aller voir les services sociaux et ils leur diront quoi ? « Ah oui, effectivement, monsieur, madame Dugenoux, vous êtes bien sympathique, mais on vous propose bien un centre d'hébergement. » Seulement, le problème, c'est que les centres d'hébergement sont mobilisés pour les migrants. « Ah bon ? Alors un hôtel social ? Eh oui, mais les hôtels sociaux sont aussi mobilisés pour les migrants. » Vous allez frapper à la mairie, c'est ce que j'ai fait. J'ai frappé à la porte de la mairie du 18e, où je me suis trouvé pendant près d'une quarantaine d'années. J'ai laissé, en l'espace de 18 mois, près de 80 messages. 80 messages à cet homme sympathique qui s'appelle Éric Lejoindre, qui est maire socialiste. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Un maire socialiste, c'est théoriquement un homme comme un élu communiste qui est proche du peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Strictement rien. Il n'a jamais répondu. Et son équipe tout autour de lui fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas qu'il y ait d'interférence entre lui et le citoyen lambda. Que le citoyen lambda, autrement dit, les gens qui l'ont élu, qui lui fournissent son salaire, parce que c'est l'argent public qui paye son salaire chaque mois. Son équipe fait le barrage entre cette communauté, donc nous, les citoyens du 18e arrondissement, et lui-même. Les services sociaux, ils sont représentés par le DALO. Le DALO, c'est quoi ? C'est le droit au logement opposable. C'est un article de la Constitution. Un article de la Constitution qui garantit à chaque citoyen, c'est écrit dans les textes de loi, de pouvoir disposer d'un logement. Quand vous les contactez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, ils vous font remplir un dossier. Et ils vont de demande en demande. Là, actuellement, j'en suis à la cinquième fois, pas deux, pas trois, pas quatre, cinquième fois où je renvoie le même document. Je renvoie systématiquement le même document. En l'occurrence, c'est très simple, c'est une demande de domiciliation qui prouve que je suis bien à Paris. Parce que pour la petite histoire, pour expliquer les choses, les SDF peuvent bénéficier d'une domiciliation, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent recevoir leur courrier. De toute façon, cette adresse est connue. Parce qu'il y a à peu près 2 ou 3 centres comme ça de domiciliation dans Paris vers lesquels se dirigent tous les SDF. C'est des endroits absolument connus. Donc de toute façon, quelle que soit la structure, tout le monde sait qu'elle se trouve, à cet endroit se trouve une domiciliation de SDF. Il n'y a absolument pas besoin de chercher midi à 14h. Par-dessus le marché, j'avais d'autres preuves. Il me demandait une quittance d'hôtel qui prouvait que j'étais bien à la rue, ce que j'aurais fourni, parce qu'il m'est arrivé, quand j'en avais marre de crever de froid et pour ne pas y laisser ma peau, comme mon ami Patrick qui est mort aux Invalides, dans la différence générale, il m'est arrivé d'aller une ou deux nuits dans un hôtel et d'avoir la quittance. Et par-dessus le marché, le jour où je me suis fait dépouiller de mes affaires aux Invalides, cette sinistre nuit, les policiers sur place m'ont accueilli de la manière la plus formidable qui soit, et ils m'ont ont fait une attestation. Donc j'avais trois preuves en béton armé, alors que le dossier du Dalo, le dossier Cerfa qu'on peut avoir sur Internet, n'en exige qu'une. J'ai un dossier blindé, mais il continue à me demander systématiquement la même preuve de cette domiciliation, alors que ça fait la cinquième fois que je le renvoie. Là, il y a une chose très simple qui intervient. La première fois, on dit « à hasard ». La deuxième fois, on dit coïncidence. La troisième fois, on dit sabotage. Quand l'erreur se répète plus de trois fois, on se dit il y a une volonté malveillante. Soit j'ai affaire à des débiles profonds, des hypothyroïdiens issus de mariages consanguins qui ne savent absolument plus faire la différence entre le réel et qui sont complètement abrutis, qui perdent les dossiers en permanence. Soit il y a une vraie volonté malveillante.
Et moi, pas prioritaire, en fait.
Et moi, voilà, moi, j'opte de plus en plus dans cette direction-là. C'est qu'il y a une vraie malveillance. Il y a une volonté pour le Dalo qui s'en vante. Les responsables du Dalo se sont vantés dans différentes interviews de donner la priorité aux migrants. Il y a une vraie volonté de donner la priorité à des gens qui viennent de l'extérieur, de leur accorder un droit à un logement social, des revenus par le RSA ou les minima sociaux, et d'accéder directement, je dirais, à un statut à avoir pignon sur rue en France. Et les gens comme moi qui sont nés dans la rue, qui sont nés en France, qui ont vécu toute leur vie à Paris, qui ont cotisé, qui ont eu une vie, ne les intéressent strictement pas. Il y a une volonté manifeste, parce que les preuves sont là. Je pourrais effectivement être taxé de complotisme. On pourrait me dire que c'est dans mon cerveau malade que germent de telles idées. Mais ce sont les faits. Que quelqu'un, maintenant, à cet instant, m'explique pourquoi une personne à qui on remet cinq fois le même document le perd systématiquement et vous le réclame une sixième fois. Pourquoi ces gens font traîner les choses? Parce que dans ce temps-là, mes frères et sœurs de misère continuent à crever sur le bitume. J'avais oublié de dire... Alors ça, c'est la politique du Dalo, c'est l'attitude du Dalo. Il y a aussi une autre chose, j'évoquais la mairie...
D'ailleurs, je rebondis, ce que tu dis, c'est pas du complotisme. En 2017, pour la Cour des comptes, l'afflux de migrants met en difficulté les dispositifs d'hébergement d'urgence dédiés au départ au SDF ou aux gens sans domicile fixe, enfin voilà, aux sans-abri, etc. C'est la Cour des comptes, hein, donc c'est pas du complotisme. Voilà. L'afflux de migrants est pas... c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas des places supplémentaires.
Non.
On les prend sur celles qui existent déjà.
Exactement.
Et donc, pour des sans-abri, la plupart du temps, français, même si on a déjà énormément qui sont étrangers. Pardon, et du coup, je t'ai coupé.
Non, mais tu as bien fait, parce qu'en plus, regarde, en complément justement du Dalo, j'ai oublié de te dire une chose par rapport à Lejoindre et sa fine équipe dans le 18e.
Qui est l'OL, Éric Lejoindre.
Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement, qui est un homme hyper sympathique, c'est-à-dire qu'il coule des jours heureux, comme le président titre à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Les usagers, ils s'en foutent. Et j'ai vraiment une haine. Et là, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse. C'est qu'en 2017, il y a une femme qui était dans la même situation que nous, Christelle Levet. Qui est morte, une SDF sur les marches de la mairie, qui a réclamé des logements à n'en plus finir et qui est morte de froid au 17 novembre en 2017. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce bon Éric Lejoindre? Il était assistant à cette époque-là, il n'était pas le maire en titre. Mais il a fait un discours. Et c'est ça la poitrine de ces gens-là. Il laisse les gens crever dans la rue et ensuite il fait un discours ému devant les caméras où il verse une larme. Mais on n'en a rien à foutre de ça. On voudrait simplement qu'il se bouge la rondelle. Excuse-moi de mon expression.
Ah non, t'inquiète.
Si je suis trivial.
Ah non, mais là, on fait ce qu'on dit, ce qu'on veut.
Vraiment qu'il se bouge le cul étant donné qu'il vit grassement avec l'argent de l'État et il ne fait strictement rien pour nous. Et donc j'ai réussi. Et donc là où je voulais en venir, c'est que à force de donner des coups de pied à la fourmilière, c'est-à-dire de me représenter inlassablement à la mairie du 18e et de fatiguer les charmantes hôtesses à l'accueil qui en ont marre de me voir, à force de réclamer, parce que tu sais, il y a un petit formulaire là-bas que tu remplis où tu dis pour contacter un élu et tu exposes ton problème. Et donc j'ai rempli ces 80 formulaires qui étaient répartis soit pour lui, le joindre, soit pour le responsable du logement qui s'appelle Mario Gonzalez. Et j'ai fini par rencontrer un de ses adjoints et tu sais ce qu'il m'a dit. Et je te jure que c'est la vérité vraie. Je veux dire, sans fioriture, sans exagération, rien du tout. Je rentre dans son bureau, je lui explique donc la situation. Il me regarde en levant les yeux au ciel et me dit « Mais monsieur, vous demandez donc un logement social ?» Je dis « Oui monsieur, c'est exactement ça. Je viens vous voir aujourd'hui pour demander un logement social. » Il me dit « Vous n'êtes pas le seul, vous le savez. » Je lui dis « Bah évidemment, dans une ville comme Paris, 2 500 000 habitants intramuros, je me doute bien, je ne dois pas être le seul à faire une demande de logement social. » Il me dit « Est-ce que vous savez combien vous êtes ?» Je lui dis « Non, j'imagine. » Il me dit « Combien de temps vous pensez attendre ?» Moi, naïvement, je le répète, je lui dis « Je sais pas. 6 mois, 7 mois, 1 an. Il lève les yeux au ciel, il rigole, il me dit « Mais monsieur... » Et là, il sort un document de son bureau, c'était une photocopie. Et à mon avis, elle était toute prête et il avait l'habitude de la sortir à dessein, volontairement, dès qu'il avait quelqu'un en face de moi. Et tu sais ce que c'était cette photocopie? C'était la photocopie. Et là, je te parle d'un événement, cette entrevue a eu lieu en 2021. Ouais. Tu sais de quand elle date cette photocopie? C'était la photocopie d'un dossier qui date de 2001. C'est la première demande qu'il a traitée quand il est arrivé en fonction auprès du responsable du logement en 2001. En 2001, il a rempli une demande de logement pour une femme et elle court toujours cette demande de logement. 20 ans plus tard, elle n'a toujours pas été satisfaite. Et il me montre ça sous le nez. Et après, il me dit, mais attendez, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 ans, peut-être que ce sera plus rapide. Alors aussitôt, quand il m'a dit ça, tu sais, je me suis, mon intérêt s'est éveillé. Je me dis, tiens, enfin, il est humain. Et tu sais ce qu'il me répond ? Il me dit, non, vous attendrez peut-être seulement 15 ans. Et je dis, mais quand vous dites ça aux gens, personne ne vous frappe, personne ne vous jette par la fenêtre. Il me dit, si, il y en a qui ont eu envie de le faire. Voilà, 15 ans. 15 ans, c'est la durée minimum à laquelle, que tu dois attendre pour avoir un logement. À ce moment-là, j'en avais 55. Je lui dis, mais je vais attendre 15 ans, je vais attendre d'avoir 70 ans pour pouvoir rentrer dans un logement quand je serai complètement ravagé par l'alcool et complètement abruti. Il m'a dit, oui, mais je suis désolé, monsieur, c'est ça ou rien. Voilà. Et dans le même temps, je l'ai constaté parce que je l'ai vu, des personnes arrivent de l'étranger le lundi à Roissy. Le mardi, ils sont pris en charge par une association qui fait une opération coup de poing Place des Vosges pour déranger le bon bourgeois Place des Vosges. Et le mercredi, la préfecture en a marre, amène du monde et par bus, pas à pied ni en métro, on les emmène dans un centre d'hébergement où ils y sont toujours. Voilà, fin d'histoire. Oui. En 3 jours, l'affaire est réglée et nous, on peut crever dans la rue pendant 15 ans.
Après, la préférence étrangère, pure et simple, ce qui est hallucinant. 15 ans pour un logement social, pendant que des gens comme Alexis Corbière, Daniel Simonet ont été dans des logements sociaux à des prix défiant toute concurrence. Hein. Ils payaient des appartements situés dans le 20e de 83 mètres carrés, entre 1 300 euros, donc entre 30 et 45% moins cher des prix du marché. Donc je vous laisse imaginer par quoi sont animées les intentions de gens pareils, qui sont de gauche, qui sont favorables à l'accueil des migrants, et sachant qu'il y a 15 ans d'attente, se mettent devant la file en occupant des logements de 83 mètres carrés dans le 20e. Dans le 20e, hein, moi j'ai jamais eu les moyens de me loger dans Paris. Et ces gens se mettre devant la file. Et comment ces gens peuvent récolter des votes et être élus ? C'est fascinant.
Mais je peux te donner un ordre d'idée. Le réseautage, les appuis.
Oui, parce que du coup, c'est ça. C'est
j'ai oublié de te dire
les gens qui travaillent là-dedans mettent leurs proches qui sont pas dans la nécessité. Il les place constamment. Combien d'amis on a qui ont des pistons ?
Parce que tu veux que je te donne la cerise sur ce gâteau affect, la cerise dégueulasse sur ce gâteau pourri. C'est qu'en fait, conversation, il me regarde dans les yeux et puis il me dit à voix basse, tu sais, genre, je vais faire une déclaration off. Surtout, tu ne le répètes pas. Il me regarde et il me dit, est-ce que vous avez des connaissances ? Je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je lui dis, est-ce que vous connaissez... Là, je parle donc, je refais une jonction. Je parle de l'adjoint donc à Mario González, le responsable du logement dans le 18e arrondissement. Donc son adjoint me dit, après cet entretien donc faramineux dont je viens de te parler, que je viens d'évoquer, il me dit, est-ce que vous avez des connaissances ? Je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Il me dit, est-ce que vous connaissez un membre d'un parti politique, un membre d'une administration haut placé, quelqu'un à la mairie ici ? Je lui dis non.
Il a assumé clairement qu'il fallait copiner, du copinage. Quoi.
Et alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des passe-droits ? Là, silence de mort, et il lève les yeux au ciel une nouvelle fois, comme si je venais de lui dire que j'étais étonné d'apprendre que la cigogne, c'était pas elle qui apportait les enfants, tu vois. Comme si j'étais d'une naïveté tellement conne que je connaisse pas les us et coutumes. Mais c'est ce qu'il a reconnu implicitement. Il m'a fait comprendre implicitement qu'avec des connaissances, je pourrais avoir ça dans quelques mois. C'était implicite. Il m'a dit clairement, si vous connaissiez quelqu'un, ça pourrait être hyper accéléré, et puis avoir l'année prochaine, voilà. Donc, en clair, pour résumer la situation, si tu es pauvre, que tu es français, tu te tires tout de suite une balle dans la tête. C'est pas la peine, ça sert à rien d'attendre. Ça sert à quoi ? Pour arriver à tous les paliers qu'on évoquait tout à l'heure, finir par trouver ta seule raison de vivre au fond d'une bouteille ou dans une pipe de crack, voilà la chose qui t'attend. Mais la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'amène juste à une conclusion, c'est que si tu veux, l'État, et comme on est dans Paris, à travers l'État, la mairie de Paris n'a qu'une envie, c'est que l'on perdure. En fait, si tu veux, c'est un peu comme une voiture que tu amènes chez le garagiste. Tu as une vieille voiture pourrie. Et en fait, le garagiste va te proposer soit de t'en vendre une autre, mais tu lui diras, j'ai pas les moyens, soit il va retaper la tienne. Et alors, voilà, on nous retape indéfiniment dans des associations caritatives à coup de petits cafés à droite, de petits repas gratuits à gauche. On nous donne un vestiaire, la possibilité de laisser des vêtements, de prendre une douche. On fait en sorte, si tu veux, qu'on continue à avoir l'énergie de subsister sur le bitume. Et grâce à nous, Attel, dans sa campagne, quand il est homme politique, dans sa campagne politique, se servira de nous pour booster les voix qu'on va lui amener. telle association se servira de nous pour avoir des subventions, etc. On est, si, comme je te le disais tout à l'heure, les idiots utiles. On est bien, bien utile pour toute cette catégorie, toute cette clique. Donc, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, jamais, 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 personne ne fera en sorte qu'on trouve un toit. Je l'ai dit souvent, tu sais, à des gens d'associations. Il y a une association, je le dis aussi dans le bouquin, et puis après, bon, je ne vais pas non plus déflorer qu'il y a dans le bouquin, sinon j'arriverai jamais à en vendre. Mais je dis en déconnant. Mais je le dis aussi, à un moment donné, je parle d'une association, vous en verrez le nom dans le bouquin. Ils sont assez faramineux. Ils pensent nous apporter une solution en nous faisant jouer au Scrabble et au Monopoly. Alors quand je suis arrivé dans cette association, j'ai vu certains d'entre nous qui étaient assis à une table, qui buvaient un café, ils jouaient au Monopoly. Et alors, j'ai dû encore être une fois une grande gueule et j'ai dû avoir l'esprit mal placé, parce que j'ai pris à des responsables de l'association à part et je lui ai dit, pardon hein, si j'ai dit une absurdité, mais est-ce que vous pensez réellement que dans la vie d'un SDF, sa principale priorité, ce soit de jouer au Scrabble ? Je vais peut-être vous dire une connerie, mais ce ne serait pas mieux de regrouper votre énergie pour lui trouver un toit ? Là, silence de mort. Ils m'ont regardé comme si j'avais essayé de leur arracher leur carte bancaire et de me sauver en courant. Tu vois, il y a une façon, encore une fois, paternaliste de nous considérer, une façon infantilisante de nous voir, une façon débilitante de nous considérer, de nous traiter. Et on imagine qu'en nous donnant un café et puis en nous faisant jouer un scrap pendant 2-3 heures avant de nous renvoyer dans le froid, ça suffira. Il n'y a pas, si tu veux, derrière tout ça, le constat qui se présente, c'est que derrière tout ça, il n'y a aucune volonté, il n'y a aucun désir manifeste et puissant de faire une chose, de taper d'appoint sur la table et de dire, bon, bah, maintenant, on se bouge le cul et on fait en sorte que plus personne ne soit dehors. Non. Non. Paris continue à s'équiper en tours de bureau. Paris continue à s'équiper, je dirais, en équipement d'hiver. Mais il n'y a rien qui est prévu pour nous accueillir. Il y a 2 centres d'hébergement. Pas 4, pas 5, 2. 2 pour 30 000 SDF parisiens. Alors, ça implique la chose suivante, c'est que tu passes des heures à appeler le 115, et une fois que miraculeusement tu as réussi à les avoir, ils te disent, bon, bah, y a peut-être une place pour vous, c'est pas sûr, mais ce sera une place, une nuit, juste une nuit, et c'est tout pour les 7 semaines à venir. C'est le principe du turnover. Pour que chacun ait sa chance, ils te donneront de toute façon qu'une seule place, une seule et unique nuit, à l'abri, et les 7 prochaines suivantes, tu devras te débrouiller tout seul. Voilà. Voilà. Tu seras obligé de retenter pendant les 7 semaines suivantes et voilà. Et encore une fois, si tu veux, c'est complètement aléatoire parce que beaucoup de femmes ne veulent pas y aller. Beaucoup de femmes ne veulent pas y aller parce que le pire des deux, là je te parle de 2 centres, celui qui se trouve à Montrouge, boulevard Romain Rolland, 48 boulevard Romain Rolland, et celui qui se trouve à Nanterre. Nanterre, c'est celui qui fait le plus peur, on l'appelle l'usine ou l'abattoir. Parce que là-bas, si tu veux, on amène plus ou moins les SDF de force, c'est-à-dire qu'il y a une navette qui part de 18h30 à 18h30 de la porte de la Villette et qu'elle les y amène. Toutes les maraudes qui circulent dans Paris et qui trouvent des SDF, c'est là-bas qu'on les y amène. Et ils ne veulent pas y aller. Parce qu'en fait, ils sont tous dans un immense dortoir, hommes-femmes mélangés, et il y a des femmes qui s'y sont faites violer, qui sont faites agresser, des mecs qui sont faits dépouiller. Et la hantise pour beaucoup de femmes d'aller dans les centres d'hébergement, c'est ça, l'agression. Être dépouillé, se faire agresser et tomber encore plus bas que là où elles sont tombées. Donc c'est de toute façon, je dirais, un système qui n'est pas, comment dire, secure, si je pourrais trouver cet anglicisme. C'est-à-dire que même s'il existe, et pourtant, attends, je mets une... Parce que je ne voudrais pas non plus paraître pour
T'as celui... T'as pas envie d'y aller, quoi.
Pour celui qui paraît négatif à fond la caisse. En plus, c'est drôle, les initiales. C'est que quand ils m'ont envoyé, parce qu'ils t'envoient, il y a tout un cérémonial. Tu appelles le 115, ils te donnent la confirmation. Ensuite, ils te donnent l'adresse par SMS. Et le SMS te servira de sésame. Quand tu arriveras devant le 115, le 48 boulevard Romain Rolland, ils t'ouvriront la porte. Et il y a écrit en dessous CHU. Et moi, alors, quand je suis arrivé sur place, j'étais persuadé que c'était un ancien hôpital. Un mec, il me dit, mais pourquoi ? Ben oui, ça trop... Moi, je pensais que les initiales voulaient dire centre hospitalier universitaire. Mmh. Par exemple, Bichat, c'est ça. Bichat, ouais, c'est un CHU. Et en fait, il me dit, non, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Donc, c'est les mêmes initiales, pour la petite histoire. Mais tu comprends tout très rapidement, parce que quand tu arrives dedans, tu vois une chose qui te marque. Il y a un escalier où il y a écrit sur le mur « Escalier réservé aux femmes ». Ça veut tout dire quand on te dit ça. Quand tu vois ça écrit, un escalier réservé aux femmes, ça veut tout dire. Ça veut dire que le parcours pour une femme est bien balisé parce que cet endroit est mixte, mais on veut la protéger au maximum.
Mais pourtant, tu dis que les dortoirs sont non mixtes.
Non, les dortoirs sont non mixtes, c'est-à-dire que moi, tu partages une chambre au centre d'hébergement, tu partages une chambre avec... Les chambres sont à deux, t'as pas de chambre seule. Tu partages avec un autre homme et les femmes avec une autre femme. Mais elles sont quand même mélangées avec des hommes. Et dans le centre de Nanterre, là, je te parle du centre Romain Rolland à Montrouge.
D'accord, mais à Nanterre, c'est
Nanterre, c'est un peu, tout le monde est un peu mélangé et tu as des risques d'agression qui sont décuplés. Et les trois quarts des femmes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, quel que soit leur âge, il n'y en a aucune qui veut aller dans un centre d'hébergement.
Ah oui, purée.
Elles préfèrent rester dehors et en étant dehors, c'est encore pire que ça.
Ouais, c'est terrible, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, oui, tu racontais dans l'interview que quand on appelle le centre d'hébergement, faut être sur le pied de guerre à 7h oui. 7h du matin, oh là là. Et harceler
carrément.
Pour espérer avoir une place.
Mais c'est con parce que si je te raconte.
Et après,
je déflore en fait, si je te dis ça, je déflore en fait le bouquin que j'écris dans le bouquin, mais je déconne. Mais en fait, oui, c'est une. Comment te dire
Un parcours du combattant.
Le 115, à mon avis, ça doit être une chose qui a été inventée par des fous furieux du KGB il y a 80 ans et qui a été remis au goût du jour. Parce que pour briser un individu psychologiquement, il n'y a rien de mieux.
Ouais.
Tu appelles. Tu as donc un disque préenregistré qui t'annonce en français, en arabe, en espagnol, en anglais, en italien,
dans cet ordre-là.
En allemand, en papou, en javanais, en martien, dans toutes les langues possibles de la Terre et de la galaxie, que tu dois surtout pas quitter, qu'on va prendre ton appel. Et le disque te dit qu'on va prendre ton appel dans une ou deux minutes.
Non.
20 minutes plus tard, tu es toujours au bout du fil et t'entends le même disque. Quand au bout de 20 minutes plus tard, il y a enfin une voix qui prend la communication, là, la personne te dit « je vais regarder votre dossier, j'en ai pour 2 minutes ». Là, t'attends de nouveau une bonne demi-heure. Au final, au bout d'une heure et demie...
Parce que vous avez des dossiers, ça c'est intéressant.
Ah oui, il y a des dossiers. Ah, chacun a son dossier.
Déjà, ce qui me rend fou, c'est pourquoi c'est autant de langues. Genre, mais mettons en anglais.
Parce que si tu veux, on est...
C'est dingue, quoi.
Parce que si tu veux, il faut savoir une chose, c'est que Paris de tout temps est une ville cosmopolite. Et il y a, en temps normal, à peu près 60 nationalités qui sont représentées dans Paris. Ça, on le sait pas assez. Mais il y a 60 nationalités du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, qui évoluent dans Paris. Donc, les appels de ce genre de service sont faits dans toutes les langues.
C'est hallucinant.
Et quand toi, tu finis au bout d'une heure et demie par poireauter, là, on te dit « Ah oui !» Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais toutes les places sont prises. Comme t'es content. Donc, pendant une heure et demie, t'as poireauté, t'as attendu, t'as stressé, et on te dit qu'il n'y a rien. Et il y a des fois des coups de miracle, parce qu'il y a des miracles purs et simples. Parce qu'il m'est arrivé, donc j'y suis allé 2 fois. J'ai réussi en 1 an et demi, tu vas rire, mais c'est vrai, j'ai réussi à avoir que 2 nuits. Parce qu'après, en 1 an et demi, j'ai réussi à avoir que 2 nuits d'hébergement, tellement je me suis découragé. Et là-bas, sur place, ça s'est bien passé, parce que... A contrario, et c'est pour ça aussi que je voudrais faire un bémol, parce que jusqu'à présent, mon discours a été négatif. Et je suis désolé, parce que je vais paraître pour quelqu'un de noir, de négatif, de sombre, d'obscur, quelqu'un de vraiment trash.
Oui, c'est pas le cas, mais...
Mais je voudrais vraiment, parce que j'ai décrit simplement une situation, mais je voudrais vraiment, donc à ce niveau-là, faire un rectificatif. Sur place, tu t'aperçois qu'en fait, ils font de leur mieux. Tu arrives à 19h45, tu as un repas qui est servi, ensuite tu peux regarder la télé ou monter directement te coucher. Au petit matin, tu peux hyper bien prendre ton temps. Ils ne te jettent pas dehors hyper tôt. Tu peux traîner jusqu'à 9-10 heures. Là, tu as un petit déj. Et quand tu descends, tu as encore... Ah oui, puis dans les chambres, il y a une salle d'eau. Donc, tu peux prendre une douche sans problème. Et quand tu descends, il y a même un vestiaire à disposition. Donc, si tu manques de vêtements, tu peux demander. Moi, je suis hyper content. Je suis reparti avec des slips et des caleçons et puis des chaussettes. Donc, c'est génial. Ouais. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que dans la rue, les vêtements, c'est hyper important.
Ouais, donc quand tu chopes la nuit en CHU, en centre d'hébergement d'urgence, c'est un bon petit répit, quoi.
Carrément. Carrément, si tu veux. Et tu veux que je te dise un truc. Là, maintenant, à contrario, aujourd'hui, je suis en face de toi, on prend le temps de discuter. Grâce à toi et à Jonathan, donc je répète, les choses se sont arrangées.
Ouais, Jonathan Moadab, qui était donc mon collègue à Valeurs Actuelles.
Donc j'étais, si tu veux, donc un peu dans l'amélioration de la chose. Et maintenant, je vois tout ça avec peu de recul. Mais je peux te dire que pour moi, ce soir-là, une seule nuit, pour moi, c'était comme si j'avais retrouvé un appart à temps plein. C'est comme si j'avais retrouvé complètement une adresse. Parce que si tu veux, c'était un vrai répit. C'était pendant une nuit où tu étais hors des agressions, tu étais hors du froid, tu étais hors de la déprime, de la désespérance. Et c'était génial. Donc, il faut encore une fois rendre à César ce qui appartient à César. Ils font un travail formidable. Mmh. Et même les associations, même si je critique par rapport aux associations, il y a quand même un vrai boulot qui est fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce qu'il y a au-dessus. Les intentions qui sont au-dessus. Parce que, je prends un exemple comme l'association Abbé Pierre. Il n'est plus là, l'Abbé Pierre, pour nous dire exactement son avis là-dessus. Mais je suis quand même super étonné. Chaque année, on fait des montagnes de collecte et ils récoltent un argent incroyable. Et en définitive, ils ont un programme de construction, mais quand tu les appelles, on te dit on n'a rien, ou on a un appartement à Reims qui est déjà pris. C'est tout ce qu'on nous dit. Mais où passe l'argent? On est censé donner cet argent pour un programme de construction de logements destinés aux SDF. Mais où sont-ils, ces logements? On nous dit dans les interviews, dans les reportages qu'on nous passe le 31 décembre pour attirer la larme à l'œil du bon contribuable, parce que comme je te le disais, c'est la période des dons. Alors opportunément, en fin d'année, apparaissent des reportages sur des SDF pour que les gens mettent la main à la poche et donnent. Donc on est hyper d'accord. Je veux dire, il y a de l'argent qui est débloqué, mais où va l'argent? Où va cet argent? Et moi, alors on me dira encore une fois que je suis complotiste ou quoi que ce soit, mais moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un bon business, la charité. La mafia business est plus florissante que jamais. Les associations s'en mettent mais plein les fouilles. Et elles touchent des deux côtés. Elles touchent de l'argent des particuliers et des subventions de l'État. Et là, au moins où j'ai vraiment les boules, c'est que je suis en train de tout raconter de mon bouquin. C'est là pour ça que j'ai les boules. Non, je déconne.
Bon, ça va, il y a quasiment 200 pages.
Oui, il y a 200 pages. Mais moi, ce qui me pose quand même problème, c'est que... Et je suis pas le seul à avoir cet avis-là. C'est que l'erreur monumentale du gouvernement, c'est de s'être débarrassé d'un devoir, d'une mission régalienne. La mission de l'État, c'est de s'occuper de chacun de ses enfants. Et ils se sont débarrassés de nous. Ils l'ont confié, cette mission, à des associations. Et je te raconte pas comme elles ont vu fleurir le bon business. Ils se sont tous précipités dans la brèche. Ils se sont tous dit, c'est une bonne solution pour se faire du pognon. Parce qu'encore une fois, ils touchent des deux côtés. Ils touchent des particuliers et ils touchent de l'État. Attends, merci mon Dieu, le pognon qui tombe du ciel. Donc voilà, moi, ma revendication, c'est ça. C'est que tout ça, c'est, si tu veux, ça soit mis à bas, qu'on fasse un audit. Moi, je demande juste ça, qu'on fasse un audit de l'argent qui est donné. Où il va, dans quelle poche il tombe, à quoi il est utilisé, à quoi il sert. C'est tout.
Ouais, bah vu l'hébergement de migrants, d'étrangers, c'est quand même très fort, quoi. C'est quand même très fort dans ses proportions, mais voilà. Ça permettrait de loger quelques Français, mais c'est vrai que la préférence étrangère est devenue normale, c'est un truc de fou furieux. Bah, Manu, toi, alors, on va pas spoiler toute la partie divulgâchée, la partie comment t'es arrivé dans la rue, même si on pourrait le rappeler. Mais surtout, voilà, moi, ce que je voulais savoir, c'était un peu la suite, parce qu'on a discuté un petit peu, voilà, avant le podcast, on a discuté peut-être une heure. On s'est raconté nos vies. Mais je sais pas encore, toi, où t'en es, et les gens qui ont vu l'entretien sur VA+, ils ont envie, ils aimeraient bien savoir où est-ce que t'en es aujourd'hui et comment ça se passe pour toi maintenant.
Si tu veux, il y a une chose qui est absolument hallucinante. Et maintenant, je vais rentrer dans le positif parce que j'ai assez un peu craché ma bile. C'est que vous avez fait cette chose assez formidable de mettre de l'image et du son sur ce que je vivais. Grâce à ça, des gens se sont intéressés au cas, à la situation, et j'ai eu des témoignages mais absolument hallucinants, des gens qui m'encourageaient. Alors, dans le lot, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à jeter. C'est toujours le problème de l'espèce humaine, c'est-à-dire que quand les gens te voient en détresse, il y a ceux que ça touche et il y a une bonne partie de dégénérés, de tarés, de crétins congénitaux qui ont envie de tirer parti, de profiter de toi ou de t'enfoncer encore plus. Ceux-là, ils sont passés à la corbeille, ils sont passés à la trappe. Mais j'ai eu finalement deux choses, deux contacts vraiment primordiaux qui sont ressortis dans tout ce lot. Et il y a notamment un type formidable dans le sud de la France. Je ne sais pas trop s'il aimerait que je dise son nom, donc je préfère le maintenir dans l'anonymat. Mais il m'a offert un hébergement dans le sud. Et donc depuis quelques mois,
dans j'y trouve. Dans le sud-ouest, c'est ça?
Et voilà, dans le sud-ouest. Et depuis quelques mois, je m'y trouve. Et là, actuellement, je suis remonté à Paris parce que j'avais des choses à y faire. Je ne pourrais pas y rester éternellement parce qu'encore une fois, c'est une main qui m'a tendu comme vous m'avez tendu votre main. Mais il ne m'a pas adopté non plus. Et c'est normal. Je veux dire, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui essaie de vous aider, il ne faut pas non plus attendre de lui qui se sacrifie totalement. Donc, comme à l'heure actuelle, j'occupe un bien qui lui appartient, je ne veux pas non plus abuser de sa générosité et y rester ad vitam aeternam. Ce n'est pas non plus mon but. La région me plaît et j'aimerais bien m'y installer, mais ce sera, je ne compte pas m'installer définitivement chez lui. Et mon objectif, bah, c'est de donner, pour répondre à ta question, c'est de donner corps, vie au bouquin, déjà que j'ai écrit, déjà pour témoigner, et puis pour me permettre aussi de, comment dire, je cherche les mots sans que ce soit trop basique, trop trivial, je dirais réseauter, je sais pas si c'est réseauter, mais disons retrouver des contacts que j'avais totalement perdus, parce que quand tu es dehors, tu te coupes de tout. Quand tu es, avant de tomber dehors, tu as des amis, tu as des réseaux, tu as des gens qui te font confiance, qui te connaissent et tout. Et quand tu perds tout, ton travail, ta dignité, ton logement, tu te retrouves comme atteint de la peste ou du sida. Plus personne ne te connaît, tu perds absolument tout. Et je me suis retrouvé, excuse-moi l'expression, à poil dehors. J'y suis resté longtemps à poil et j'y suis encore un petit peu moins maintenant grâce à vous deux. Mais je suis encore un petit peu, si tu veux, démuni de tout ça. Et j'ai besoin de me reconstituer, si tu veux, un peu autour de moi. Pas un réseau, mais disons comme tout citoyen lambda, des contacts avec lesquels je vais pouvoir maintenant renouer avec ma vie d'avant, c'est-à-dire recommencer à travailler et tout. Mon objectif, comme tu l'évoquais tout à l'heure, j'ai travaillé dans le spectacle, j'aimerais bien renouer, j'aimerais bien reprendre à ce niveau-là l'activité que j'avais avant. Ce sera peut-être difficile parce qu'on est très vite obsolète dans ce milieu-là, les équipes se renouvellent en permanence. Ça serait très très dur sans doute de renouer, mais au moins je me dis naïvement, sans avoir d'idées précises, si tu veux, je navigue un peu à vue.
Ouais.
Je peux pas faire de plan dans ma situation, je peux pas planifier puisque je ne sais même pas où je serai vraiment demain, mais je sais simplement que le bouquin peut permettre, entre guillemets, peut-être me permettre de renouer un petit peu, tu vois, avec un, je dirais, une vie sociale qui me fera rebondir.
Parce que toi, au départ, tu as été un peu comédien dans des films, mais après, tu as été dans la déco, tu faisais des décors de cinéma.
Voilà, cinéma, ouais. Théâtre. Bah, en fait, si tu veux, c'est ce qui m'a conduit là où je me suis trouvé, c'est qu'en fait, ça s'est bien passé pendant pas mal de temps, et il y a eu ce jour un peu singulier, un peu particulier, où je me suis mangé la moitié des décors sur la tête.
Et en gros, c'est tombé de.
Ouais, voilà.
C'était dans un studio et ça s'est décroché.
Parce que voilà, c'était une structure qui était hyper mal arrimée. Et le mauvais côté de l'histoire, c'est que je travaillais sans vraiment être déclaré. C'était un coup de main qu'on donnait à une équipe américaine qui était absolument débordée. Des gens très sympas, mais qui avaient deux mains gauches et six pieds droits. Et absolument aucun cerveau, et donc ils ont assemblé ça comme un Lego sans prendre de sécurité, rien du tout. Nous, on est arrivés en renfort pour essayer de leur donner la main. Le décor s'est cassé la gueule. Il y a eu un type d'ailleurs dans l'équipe américaine qui était sérieusement, maintenant je crois qu'il s'en est sorti, mais à l'époque on pensait qu'il était quasiment handicapé. Moi, je m'en suis tiré avec une rupture de l'acromion, une rupture massive à l'épaule gauche. Tout ça, ça m'a éloigné pas mal de temps. Et il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'a pas de CDI.
C'est ça la cicatrice que t'as.
Voilà. La cicatrice que t'as vue, c'est là, c'est à l'épaule gauche.
Ah, d'accord.
Et il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'a pas de contrat à vie. Il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de film qui dure, de pièce de théâtre, voilà, qui dure toute une vie. On va de contrat en contrat. Et entre deux contrats, ça peut être des sauts de puce, c'est-à-dire que quelques jours peuvent s'écouler, mais des fois 3, 4, 6 mois. Donc il faut thésauriser, il faut être comme l'écureuil de l'ancienne pub pour la caisse d'épargne, il faut mettre de côté. Parce que sinon, les jours noirs arrivent très vite où tu n'as plus rien. Et je me suis retrouvé comme ça, avec une longue rééducation, l'intermittence qui s'est barrée, avec quasiment plus rien après. Et si tu veux, là...
Parce que du coup, le fait que tu n'étais pas vraiment déclaré à ce moment-là, tu n'as pas été reconnu accident du travail.
Non, et en plus,
comment c'est possible, le collègue américain qui a été blessé...
Parce que lui, il était sur son lieu de travail et tout, mais moi, je n'étais pas déclaré. Lui était dans les règles, pas moi.
Il n'y avait pas moyen que l'assurance maladie le
reconnaisse. Ben non, parce qu'ils n'avaient surtout pas envie que nous, on soit déclarés. On était une dizaine. Ils ne voulaient surtout pas que 10 mecs se présentent comme ça et soient dans l'organigramme, dans les fiches de paye de la production, alors qu'on était payé au black et que surtout pas, il n'y avait surtout aucune trace de nous. Et il faut savoir aussi une chose.
Mais c'est fou, et du coup, cette boîte, elle ne t'a pas aidé à faire ce boulot d'assurance maladie.
Une boîte américaine, absolument rien. Il faut aussi savoir une chose, c'est que.
Pas une procès.
Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en fait, pour un. Je ne connais plus les chiffres à l'heure actuelle parce que j'ai déconnecté depuis bientôt 4 ans. Mais à l'époque, il fallait 507 heures pour un comédien et un figurant d'activité en moins de 10 mois pour avoir l'intermittence. Et pour un technicien, dans les 510 à peu près. Et il faut savoir une chose, c'est que tu peux travailler toute l'année sans les faire, sans réussir à les faire. Moi, souvent, j'ai travaillé, je travaillais régulièrement, mais si tu veux, chaque année, je faisais le bilan et j'arrivais à 490, 400, tu vois. Et tant que tu n'as pas les 507, tu n'as pas d'intermittence. Donc, tu n'as pas voilà, cette allocation qui tombe chaque mois. Donc, je vivais avec mon argent. Ce qui fait que beaucoup de gens se font une fausse idée de l'intermittence. On s'imagine qu'en deux tournages, on peut l'avoir. Mais non. Moi, si tu veux, j'ai travaillé pendant près de 30 ans dans le spectacle. Et tu sais combien de temps j'ai eu l'intermittence ?
Non.
3 ans au total.
Donc, au final...
Sur 30 ans d'activité dans le spectacle, j'ai seulement eu à 3 reprises l'intermittence. Parce qu'à chaque fois, il manquait quelques heures pour bénéficier. Et là... Comble de malchance, quand cet accident m'est arrivé, j'avais justement un déficit d'heures. J'avais même pas 490. Pourtant, je bossais régulièrement. Mais il me manquait en l'espace imparti, c'est-à-dire en moins d'une dizaine de mois, la possibilité de les faire. Voilà. Donc, je me suis retrouvé sans intermittence, avec juste mon argent. Alors, évidemment, comme j'ai comme ma carte vitale, mes soins, mon hospitalisation, ma rééducation, tout ça, ça a été pris en charge. Mais par la suite, j'ai dû vivre sur mon ACU, sur mon pécule.
Mmh. Parce que souvent, ouais, on s'imagine que les intermittents du spectacle travaillent la moitié de l'année. Mais en l'occurrence,
non.
Il y en a certains. Alors, parce que.
Des fois, tu peux passer 4 mois.
Ceux qui arrivent à faire les heures.
Des fois, tu peux passer 4 mois entre deux tournages.
Ouais. Mais voilà, il y a des milieux artistiques où les gens ils travaillent 6 mois d'affilée, 1 an d'affilée, et après ils ont un an de congé payé, quoi. C'est sûr, mais voilà, il faut avoir ses heures. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas injuste parfois, parce que moi dans mon entourage j'ai vu ça, des gens qui étaient à temps plein, mais en tant qu'intermittent. Et du coup, ils bossaient un an.
Là, en fait, tu vois.
Tu vois un peu les cas de figure.
Ouais, ouais, exemple, des totalement, de prod, exactement. Ce que tu dis là, exactement. J'ai des exemples que j'ai entendu autour de moi évoquer sur, par exemple, simplement des employés de bureau, ceci, cela, qui étaient simplement dans des boîtes de production, qui n'étaient pas dans le côté artistique, la fabrication, la création, qui n'étaient pas musiciens, qui n'étaient pas techniciens, qui n'étaient pas comédiens, ni figurants, ni chanteurs, ni rien du tout, mais simplement en étant salariés dans une maison de production, avaient ce statut. Je vois tout à fait ce que tu dis là. Et j'entends très très bien. Et j'entends même, mieux que ça, on m'a aussi évoqué des situations où tu as des comédiens qui ont pignon sur rue. On a évoqué un jour, mais ça j'en suis pas sûr, on a évoqué un jour le cas de Jean-Paul Belmondo ou d'autres qui profiter de leurs acquis pour toucher l'intermittence, mais ça m'étonnerait énormément. Et si ça arrive, moi je vais te dire une chose, pour certains c'est peut-être le cas, mais tu vois, je suis très mauvais, là par contre c'est une question vraiment à laquelle j'aurais beaucoup de mal pour te répondre, parce que tu vois, à tout prendre, c'est un milieu tellement dur, c'est un milieu tellement aléatoire, que je me dis que ceux qui profitent de ces avantages-là, je me dis, après tout, pourquoi pas. Ouais. Et je vais même te dire que si j'étais à leur place, sans doute que je ferais la même chose. Parce que tu vois, j'ai appris, et surtout au jour d'aujourd'hui, où je vois comment la société te traite, où je vois, si tu veux, des locataires comme celui qui se trouve à l'Élysée, qui n'a eu qu'une chose quand il est arrivé, c'est de doubler son salaire. Des gens qui sont des inutiles, qui cumulent de vendins, et qui se doublent leur salaire, qui ont des appartements de fonction.
Des logements sociaux.
Des logements, tu vois, mais c'est complètement hallucinant. Tiens, tu parlais de
Simonet
Corbière. Tu connais le cas de Rousseau aussi, Sandrine Rousseau ?
Il y en a d'autres.
Sandrine Rousseau, tu veux que je te la raconte ? Tu la connais certainement. Elle se présente sur une liste du 17e, donc officiellement et légalement, elle est censée et elle est tenue à avoir un domicile dans cet arrondissement. Et là, en fait, pas du tout. Elle donne une adresse et un journaliste plus tard évente la supercherie, elle n'y a jamais habité. Et quand ils l'ont interviewée, il lui dit « Mais attendez, vous faites élire sur une liste dans le 17e, sauf que vous n'y habitez pas. » Vous donnez une adresse et vous n'y avez jamais habité. Et là, elle se lance dans une explication alambiquée où elle dit qu'elle avait le choix entre deux appartements, elle aurait pu habiter dans le 17e, ça a failli se faire, mais finalement ça ne s'est pas fait et elle est allée ailleurs. Donc, deux conclusions. Non seulement elle a escroqué l'électorat, mais en plus de ça, cette personne hyper honorable a eu le choix des appartements, comme Corbière et d'autres, un florilège de possibilités qui leur sont offertes, et le fait du prince, ils choisissent. Alors finalement, je vais dans le 17e, je sais pas, je vais peut-être aller ailleurs et tout. Voilà, c'est ouais. Ça le fait du prince, avoir à sa disposition moult possibilités entre lesquelles on choisit, alors qu'on est déjà blindé. C'est des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas de besoins financiers, qui sont déjà stables financièrement. Et nous, on est sur le trottoir et on lutte pour ne serait-ce avoir qu'une seule nuit d'urgence. Je parle même pas d'avoir un mois d'hébergement, une seule nuit d'urgence. Voilà la réalité dans le monde actuel.
Bah oui, c'est ça. Claire Monod.
Sandrine Rousseau.
Ouais, non mais Claire Monod a porté plainte contre la députée écologiste pour inscription indue sur liste électorale avec élaboration d'un faux. Il lui est reproché d'avoir fourni un faux certificat attestant de sa résidence dans le 13e arrondissement de Paris et ainsi feindre un ancrage local dans la 9e circonscription.
Ah oui, je t'avais dit le 17, excuse-moi, ouais, c'est le 13. C'était le 13 ou le 13 ou le 17 aujourd'hui ?
13e arrondissement, oui.
D'accord, le 13, excuse-moi.
La 9e circonscription, parce que
excuse-moi.
Non, t'inquiète.
Ou alors ça va être le. Oui, alors j'ai fait une confusion, ça va être dans le 17 qu'elle a aménagé. C'est là qu'elle a dû aménager.
Ouais, c'est ça, c'est possible. Parce qu'en fait.
Oui, t'as raison, c'est le 13, ça me revient maintenant. C'est le 13 qu'elle a évoqué, qu'elle a avancé comme adresse domiciliaire, mais c'est dans le 17 finalement qu'elle a.
Parce qu'en plus, elle était en tant que professeure de l'université de Lille censée résider à Lille. Et donc, c'était l'objet d'un article. Mais bon, bref.
De toute façon, Poupette, elle est agitée, quoi, je veux dire. Ça se voit déjà dans ses combats, dans sa diatribe, dans sa façon d'être. Elle est complètement secouée. Donc, Excuse-moi.
Non, non, mais t'as raison. Donc, t'as cet accident du travail.
Oui.
Et que, comment va arriver. Alors, ouais, cet entretien, désolé, c'est pour ceux qui nous écoutent.
Non, non, je t'en prie.
C'est un peu le monde. C'est un peu le.
Bah, si tu veux.
Bon, c'est un peu à l'envers. Le
ouais, ouais, ouais.
On a raconté un peu à l'envers.
On
mais,
raccroche les.
Certains
ont, on raccroche les wagons.
On a déjà écouté l'interview, mais c'est ça, on raccroche les wagons.
Et là, par contre, je vais pas trop l'évoquer. Je vais rester aussi dans une espèce de flou artistique. Parce que c'est une affaire qui n'est pas totalement jugée, c'est que l'immeuble où je me trouve, c'est à Porte de la Chapelle. Et Porte de la Chapelle, c'est devenu un peu plus trash. Je cherche une ville encore un peu plus trash que Mexico. À mon avis, les cartels colombiens et mexicains qui se font la guerre à Mexico, ça n'a rien à voir avec la Porte de la Chapelle. J'exagère en disant ça, mais à peine. Et des immeubles comme le mien sont investis par une faune absolument déterminée qui prend le contrôle de tout et nous fait fuir les uns après les autres. Sauf que derrière, il y a des bailleurs. Et les bailleurs se sont rendus compte, avec une espèce de cynisme effroyable, qu'il fallait une population de toute façon. Donc ils n'ont pas hésité longtemps entre nous, qui, quand je dis nous, c'est-à-dire les locataires de longue date qui avions pignon sur rue dans cet immeuble et ceux alentours qui connaissent le même système, ils n'ont pas hésité. Et pour être encore plus clair, je me suis très vite trouvé en confrontation avec les dealers de drogue qui se trouvaient au-dessus de chez moi et ceux qui avaient investi l'immeuble et qui nous faisaient partir les uns après les autres. Comme j'ai pas du tout une mentalité, tu l'as vu, de soumis, j'ai jamais voulu être victime dans la vie. Je m'en suis pris plein la gueule souvent à différentes occasions, mais je refuse la peau de mouton qu'on voudrait bien me faire endosser. Je n'aime pas ce rôle et je ne l'endosserai jamais. On prend des risques dans ces cas-là et je l'ai payé. C'est-à-dire qu'en m'opposant à eux, je me suis aussi opposé de fait au bailleur qui a fini par trouver que j'étais trop remuant. Je te résume considérablement l'histoire.
Ouais,
et avec d'autres locataires dans la même situation qui voulions résister, on s'est retrouvé en situation de résiliation de bail. Ils ont trouvé qu'on était trop remuant et ils nous ont prié d'aller voir ailleurs si on y était. On a fait appel.
Ils
résilient le bail, c'est tout simple.
Ils ont le droit de résilier un bail.
Ah, mais parfaitement. Non, non, c'est pas un bail social. Moi,
non,
j'avais.
C'est pas un bail social, d'accord.
En fait, si tu veux, comment te dire, plus ou moins, c'est-à-dire que moi, j'avais un appartement sous le statut du 1% patronal. Mais ce sont quand même des baux qui sont renouvelables. Les baux, quel que soit le contexte, que ce soit des baux. En association, je veux dire en caritatif, social ou privé, ils passent tous par un statut de renouvellement. C'est le principe. Et tu peux très bien ne pas jeter quelqu'un dehors, mais simplement ne pas lui renouveler le bail. Et à partir de ce moment-là, tu deviens hors la loi et on te jette dehors. Et c'est ce qui s'est passé. Le principe est passé au tribunal. Moi, j'ai perdu, comme d'autres, et je me suis retrouvé dehors. Voilà, fin de l'histoire. Pourtant, j'avais les moyens de payer mon loyer, je le payais régulièrement. Mais si tu veux, je me suis fait.
T'as pas eu le temps de rebondir autre part ?
J'ai eu le temps de, pardon ?
De rebondir, de trouver un autre logement à ce moment-là.
Absolument pas. C'est là que je me suis retrouvé dehors. Et tu me pousses à raconter tout mon livre, c'est pas bien ça, hein ?
Non,
parce que si tu veux, je vais. Alors, le truc, c'est qu'en fait. Mais je vais juste te faire une petite parenthèse, je vais pas tout te raconter non plus, non, je plaisante. C'est qu'en fait.
Pour de vrai, sans toi libre, il n'y a pas de souci, je pense.
Si tu veux, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé dehors. Et en pensant en plus avoir Adélé, parce que cette histoire s'est passée au début de la fameuse trêve hivernale, et je pensais donc avoir Adélé, sauf que ça n'a pas été le cas, ils se sont arrangés pour juste m'expulser avant la date limite du début de la trêve hivernale. Il faut vraiment être des enfoirés. Et là, je me suis retrouvé 15 jours dans un centre d'hébergement qui est destiné à des populations venues surtout du continent africain, une petite quinzaine de jours, et là, j'ai subi ma deuxième expulsion, on m'a dit que j'étais pas renouvelé. Et les personnes qui se trouvaient à cette époque-là, ils sont toujours, pour des mois, des semaines et tout.
C'est fou, ça.
Parce que le principe, c'est que tu en nouvelles tous les 15 jours. Tous les 15 jours, quand tu te trouves dans ce centre, tu appelles le 115 et tu dis, voilà, est-ce que je suis renouvelé ? Là, c'est le SAMU social qui travaille en permanence avec le 115, qui te renouvelle ou non. Je les appelle ce fameux jour, au bout de 15 jours, mais je ne le savais même pas. On m'a pas prévenu. On m'a dit, voilà une adresse, comme ça, on me l'a jeté au visage, comme on m'aurait donné à bout de pain, en me faisant croire que je pourrais là-bas trouver une solution, mais pas du tout. Moi, je pensais réellement pouvoir me rebondir et pouvoir me remettre sur les pieds en étant là-bas, mais absolument pas. Au bout de 15 jours, on m'a de nouveau prié de plier bagages. Donc, c'était la deuxième expulsion, je crois que c'est un record dans le Guinness. En moins de 15 jours, je me fais foutre dehors d'un endroit, après m'être fait éjecter de mon appartement. Je me suis fait éjecter du centre d'hébergement. Après mon appartement, j'ai été éjecté du centre d'hébergement. Et les personnes que j'ai côtoyées à ce moment-là, ils sont certainement toujours. Parce que quand je les interrogeais.
Dans des hôtels, en plus.
C'est un ancien hôtel, c'est l'hôtel Moulin à Poissy, qui était un ancien hôtel, tu sais, comme les hôtels Formule 1. Qui était un hôtel commercial et tout, et qui a été
par la préfecture.
maintenant qui est dévolue à l'accueil de migrants.
Ouais, non, c'est fou, et c'est l'État qui paye l'entièreté de l'occupation de l'hôtel aux propriétaires. Et il y a des propriétaires, alors certains ça les arrange, ils disent bon, au moins il est rempli en permanence,
il faut la pièce. Mais Benoît,
certains avaient pas cette vision et ils voient parce qu'il y a les Formule 1, mais aussi des gens qui avaient des chambres d'hôtes dans des endroits en France, pas des zones très urbaines, plutôt voilà, dans des coins à la campagne, et qui se retrouvent avec leurs chambres d'hôtes investies, réquisitionnées par l'État. Et du coup, les trucs à l'intérieur sont dans un état monstrueux, parce qu'ils se volatilisent aussi parfois, les types.
Les 18e arrondissement, prenons le 18e arrondissement. J'ai fait ma petite enquête de prospection pour savoir, juste pour me rendre compte. Figure-toi que la mairie se trouve place Jules Geoffrin. Tout autour de Jules Geoffrin, il y a une kyrielle de petits hôtels. Des hôtels classiques qui donnaient des chambres à toi, moi, aux touristes lambda. Des hôtels bas de gamme que je choisissais parce que je n'avais pas les moyens. Il faut savoir que les prix à l'heure actuelle pour une chambre normale dans Paris, c'est minimum 80 euros. Si tu lâches pas 80 euros, le minimum que tu peux trouver, c'est 50 euros. Mais pour 50 euros, tu as une chambre pourrie avec les toilettes sur le palier.
Ouais, c'est ça, ouais,
donc ces hôtels-là, c'est 50 euros la nuit minimum. Et tu t'aperçois en les prospectant à chaque fois, parce que les premiers temps, je me disais, mais je ne peux pas rester dehors. Je refusais cette idée de finir sur un banc. C'est que petit à petit, cette idée m'est venue. Mais dans les premiers temps, les maigres euros qui me restaient, je voulais les consacrer à avoir une chambre d'hôtel. Parce que je me disais, tant que je suis à l'abri, tant que j'ai un toit sur moi, je peux réfléchir, je peux combiner, je peux planifier, je peux faire des choses. Et là, à chaque fois, Baudouin, pas une seule, pas deux fois, sur les 10 ou 15 hôtels que j'ai prospectés tout autour du centre géographique de la mairie du 18e, tous ont le même statut. Maintenant, c'est des hôtels sociaux. Ils ne prennent plus aucun membre extérieur, aucun touriste, aucun client de passage. Et tu sais pourquoi? Comme tu viens de le dire, parce que les migrants, c'est une population hyper intéressante pour eux. L'État, via les associations, paye sans problème, sans discuter, et c'est du long terme. Donc ils ont les loyers qui tombent tous les jours, ils ne sont pas obligés de se dire « on va être obligé d'attendre le client qui va frapper à notre porte, le client lambda, le touriste lambda ». Ils ont une clientèle assurée du 1er janvier au 31 décembre. Et petit à petit, dans tout Paris, tu ne trouves quasiment plus aucun de ces hôtels bas de gamme. Paris était réputé pour ça. Paris avait cette capacité d'avoir, si tu veux, un panel d'hôtels à disposition hyper intéressant. Tu pouvais aller du Ritz à 3000 euros la nuit, et descendre jusqu'à celui dont je te parle, il a un nom rigolo en plus, c'est l'Hôtel du Nord, qui est à 50 euros la nuit. Et entre les deux, tu avais toute une marge. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Tous ces petits hôtels bas de gamme se sont dit, les managers, les directeurs se sont dit, on va faire un super business, on va louer tout ça à l'État, on va accueillir des migrants, comme ça, on a l'argent qui tombe et on leur demande ce qu'on veut. Et cling-cling, tiroir-caisse, t'imagines mon gars, un hôtel où ils ont une cinquantaine, une soixantaine de chambres, et ils demandent à chacun par mois 1500 euros. Parce que c'est ça le business. 50 euros la nuit, ça te fait à moins 1500 euros. Donc 60 euros multipliés, 60 chambres multipliées par 1500 euros. Tu vois le business? Ça du 1er janvier au 31 décembre.
Ça remplit
les poches du manager, les poches
du directeur. L'agenda de réservation, il est pas besoin de frais de réceptionniste, c'est toujours les mêmes.
Pas besoin de s'emmerder,
c'est les services sociaux qui les envoient.
Pas besoin de se prendre la tête, voilà.
Pas besoin de rénover régulièrement, parce que les hôtels doivent régulièrement.
La qualité de l'hôtel, le service, ils s'en foutent de tout ça, rien à foutre.
Ouais, non, c'est un truc de fou.
Donc c'est un business absolument effroyable. Et attends, là on arrive sur le.
Ce qui peuple Paris de population halogène.
Et on arrive sur le côté croustillant, c'est que je suis aussi un petit peu dans l'angoisse. Parce que même si je suis avec toi, là, que je suis en train de discuter, qu'on est à la cool, parce que t'es un mec cool, et puis je te dis, je me sens vraiment bien avec toi. Il y a un climat que tu sais instaurer qui est magnifique. Malgré tout, j'ai quand même une angoisse en Poitiers. Et j'ai une angoisse sourde. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve quelque chose très vite. Pourquoi? Parce que l'État va nous jeter. L'État, les JO, c'est dans moins d'un an. L'État va faire place nette. Dans chaque ville, quand il y a une organisation qui se prépare, quand tu as un événement comme les JO qui se présentent, ils font le ménage, ils balayent devant leur porte. Et en l'occurrence, les déchets qu'ils vont balayer, c'est nous. Ils ne veulent plus personne. Et tu as entendu parler de ce plan de foutre les migrants, de les répondre en province. Mais non seulement c'est le cas, mais en plus de ça, de tous les SDF. Et alors, je suis d'accord avec toi, ils vont pas ressortir les bus de la rafle du Veldiv, ils vont pas nous faire monter dedans de force et nous expédier dans des camps, mais malgré tout, c'est un peu l'état d'esprit. Ils veulent qu'on se foute le camp, ils nous y incitent de plus en plus. À l'heure actuelle, quand tu vas dans n'importe quelle association, quand tu vas au PSA Bastille, quand tu vas dans toutes ces organisations qui sont censées nous aider, la première question qui vient, vous avez de la famille en province? Vous n'avez pas envie de vous en aller? Pourquoi vous restez là? On te pousse pousse à te barrer. On veut pas que tu restes. On veut faire le ménage. Paris ne veut plus de nous. Paris n'a plus envie des déchets qu'on représente à leurs yeux. Ouais. Ils veulent nous foutre dehors.
Ouais, c'est des accélérateurs de gentrification, les genres de grands événements de la grand messe cosmopolite que sont les JO. Alors évidemment, je suis pas en train de cracher sur l'athlétisme et le sport en général, mais oui, c'est des moyens d'un peu nettoyer les Coupes du Monde. La Coupe du Monde au Brésil avait fait beaucoup parler pour un peu ce nettoyage social. Mais ouais, bah, s'ils pouvaient déjà nous enlever les migrants, mais pas les mettre dans les campagnes, envoyer d'où ils viennent, ça serait pas mal. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, j'ai vu que là, ils sont en train de pousser les bouquinistes à se déloger.
Des bouquinistes, tu l'as vu, c'est hallucinant.
Alors, je sais pas où ils vont aller, les bouquinistes. Parce que
Paris, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
S'ils ont l'intention de mettre les bouquinistes sur des aires d'autoroute, ça va être drôle. Hein, mais c'est hallucinant, en fait, je veux dire. C'est les bouquinistes, c'est les quais de Seine. Même à Lyon, c'est sur les quais de Saône.
Ils ont 400 ans d'existence. 400 ans d'existence. Ouais, non, 400 ans que les bouquinistes sont là. Et une mairie caractérielle, hystérique, incapable de gérer quoi que ce soit, préfère inonder Paris de chantiers à la con qui font un désastre au niveau de l'accueil des touristes qui n'en peuvent plus parce qu'ils n'arrivent plus à circuler, ils trouvent ça laid, mais par-dessus le marché, ils défigurent de plus en plus, je dirais, au niveau de tout ce qui fait la qualité de l'image touristique.
Ah, bien sûr.
Supprimer les bouquinistes, c'est comme si tu as envie de déboulonner la Tour Eiffel. Les bouquinistes, c'est l'identité de Paris.
Ouais, pas mal de bouquinistes sont menacés là. Ouais, non mais c'est incroyable ce que tu dis sur cette volonté de délocaliser. Alors parce que instinctivement tu te dis bah oui bah il serait mieux à la campagne, mais c'est pas aussi simple que ça quoi.
Non parce qu'on
si va pas leur filer un jardin avec un pas de terre quoi.
Mais absolument pas. Surtout qu'en plus si tu veux il y a
ça
pas
dans des F1 en banlieue de.
Il y a pas d'activité là-bas. Il y a pas d'activité. Tu prends un village de 300 Pékin et tu leur envoies 100 migrants. C'est hallucinant ça. Ils n'ont pas d'activité. Il n'y a pas de lieu pour les accueillir.
Ils vont réagir comme les migrants.
Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer?
Ouais, c'est ça qui est marrant, parce que souvent on dit ah oui, dans les migrants, les gens n'en veulent pas parce qu'ils sont racistes.
100 migrants qui arrivent dans un lieu de 300 habitants qui n'ont pas les moyens de les accueillir. Qu'est-ce que tu crois
qu'il
va se passer?
Même sans SDF, c'est pas absorbable.
C'est pas possible. Parce que si tu veux, la possibilité. Tu vois, le constat qui vient, sans faire de politique, sans, si tu veux. Mettre une identité, une couleur, une étiquette à quoi que ce soit. C'est un simple constat, si tu veux. Je suis obligé, et je te jure, Baudouin, c'est pas pour aller dans un sens ou dans un autre. Je te jure, fais-moi confiance quand je te dis ça. Je l'ai vécu, je le constate. L'envie, la volonté qui est là, c'est pas d'arranger un problème, c'est pas de résoudre un problème, c'est de s'en débarrasser. On nous colmate à coups de café et de coups de Scrabble pour qu'on tienne notre rôle quand on est à Paris, et quand ils en peuvent plus de nous voir déambuler, parce que pendant un certain temps, le moment des JO, notre rôle, ils n'en ont plus rien à foutre qu'on l'occupe ou qu'on le remplisse. Là, ils nous jettent dehors. Donc, il n'y a pas de volonté manifeste de résorber tout ça. Il y a une volonté de se débarrasser du problème. Et tu sais pourquoi? Parce que Paris, c'est le centre du pouvoir. Donc, le pouvoir ne veut pas avoir ça sous les yeux. Le pouvoir à l'Assemblée nationale, il n'a pas envie d'avoir, je veux dire, une bande de clodos qui sont sur les quais. Ils veulent débarrasser tout ça. Tous ces petits rigolos qui ont leurs appartements dans le 7e. Ils n'ont pas envie de nous voir. Ils n'avaient pas envie de nous voir aux Invalides où je me trouvais tout, où Patrick se trouvait quand j'ai vu son corps raidi par le froid. Ils n'avaient pas envie de nous voir. Pourtant, on s'y trouve. Donc, l'envie, c'est de nous éjecter, pas de nous sortir de la situation, de se débarrasser de nous.
Ouais. Non, c'est à la fois, on a l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont faites, mais à la fois, c'est pas la bonne méthode. Parce que ce que tu dis, par exemple, sur les coups de Scrabble et les coups de café, il y a plein de gens de bonne volonté qui pensent bien faire. Moi, je te prends mon exemple. Dans notre paroisse, on nous dit est-ce que vous voulez rejoindre Hiver Solidaire, etc. Donc, on s'inscrit et on vient. C'est une fois de temps en temps. On vient. Alors, c'est des paroisses où il y a tellement de jeunes qui sont dispo que, en fait, alors c'est mal réparti parce qu'il y a une énorme demande de la part de ces paroissiens d'aller à Hiver Solidaire et de prendre un dîner. Alors, nous, on n'organise pas la chose, ni la philosophie du truc. Donc, on se dit, bon, on va un peu aider, on va donner de notre temps. Instinctivement, tu dis que c'est bien. Et du coup, tu te pointes à Hiver Solidaire. Alors, je raconte un peu, parce que Emmanuel, me raconte l'envers du décor. Mais du point de vue de celui qui a fait Hiver Solidaire en tant que bénévole, entre guillemets, c'était mon cas. Tu donnes ton temps, la paroisse te propose de te pointer. Et donc, tu dois dîner. Et après, alors nous, on n'a pas fait les jeux de cartes, mais bon, on discutait. On a fait les jeux de cartes. En fait, je te dis ça, on a fait des jeux de cartes, je m'en rappelle. Mais en général, on préférait discuter et tout. Et déjà, il y a beaucoup d'étrangers, que ce soit d'origine étrangère ou même des étrangers tout court. Et, Et en effet, on se pointe et on fait le dîner avec eux. Et c'est sympa en soi, bon, bah, faire un dîner, bon, voilà. Mais ce que tu disais, c'est que toi, du coup, les sans-abri, ils sont obligés de se pointer là, alors qu'ils auraient envie d'être tranquilles dans leur coin, et appeler leur famille ou je sais pas quoi. Et du coup, en fin de compte, c'est super infantilisant et que c'est pas toujours les mêmes personnes, donc vous liez pas vraiment d'amitié. Enfin bref, c'est un système qui est très mal foutu. Est-ce que tu peux raconter plus en détail? Parce qu'au départ, nous, on y arrive de bonne volonté, quoi.
Exactement. Et si tu veux, c'est ça le problème. T'as mis déjà des voix en évoquant ce sujet-là, t'as mis le doigt sur un point sensible. Et encore une fois, je mets l'accent là-dessus. Moi, mes revendications, moi, ma colère, elle ne va pas contre les bénévoles, contre ceux qui donnent de leur temps. Parce que je sais, comme toi et comme tous ceux qui sont là, c'est une envie d'aider son prochain, de tendre la main. Moi, ce qui me pose problème, c'est la politique qui est à la base de tout ça. Les attentions, le cahier des charges, tout ce qui est prévu, je dirais à la base, tout ce qui est à l'origine d'un programme comme Hiver Solidaire. C'est ça, moi, qui me pose problème. Ce n'est pas l'individu lambda. Et en l'occurrence, je peux résumer ça de manière très simple. Hiver Solidaire, c'est le zoo. C'est un zoo. Dans les époques passées, situées au début du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, il y avait encore ce qu'on appelait les zoos humains. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
Oui,
les zoos humains.
Les expositions coloniales,
où on montrait des indigènes, si tu veux, qui venaient de pays, de colonies d'Afrique ou d'Indochine.
Dans un décorum de leur pays.
Et puis, souvent, ces expositions-là, elles avaient lieu à Paris. Et le Parisien lambda, comme il emmenait sa femme et son fils au cinéma naissant ou au parc, il amenait ses enfants et sa femme voir les expos coloniales. Donc, il rigolait sur le bon nègre. Le mot, c'était l'époque. Hein.
Oui, bien sûr.
Il n'y a aucune connexion raciste. Hein. C'est le mot qu'ils utilisaient à l'époque. Donc, je l'utilise dans le contexte de l'époque. Ils allaient voir le bon nègre bananien, entre guillemets, et je le redis dans le contexte de l'époque, et si tu veux, ou alors le bon chinois, tu sais, avec le chapeau en paille de riz. Et ça, c'était le contexte de l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hiver Solidaire, c'est un zoo humain. On a simplement remplacé les indigènes de ces pays d'Afrique et de Cochinchine. Nous, c'est nous qui viennent voir. Ils viennent, alors les bénévoles, ils viennent en fin de journée pour voir le SDF parce qu'ils en voient de près. Il le voit parler, il le laisse témoigner. Donc pendant
et ça va parce qu'il a pris sa douche.
Les quelques semaines où je suis resté là,
donc ça le dérange
j'ai
pas
passé
trop.
Le même rituel à répéter chaque soir d'où je venais, parce que ouais, c'est ça le délire.
Ce
qui te pousse à la folie, c'est que chaque soir c'est des têtes différentes. Et chaque tête différente a l'impression que c'est la première fois qu'on va raconter notre histoire, mais elle a envie de la connaître. Donc du 1er janvier au 31 décembre, ça va te durer pour aussi longtemps. Mais disons du 1er décembre à fin décembre, c'est la période où je suis resté. J'ai dû raconter à des têtes nouvelles à chaque fois la façon dont je vivais, ce qui m'arrivait et tout. Tu le fais de bonne grâce une première fois, deux fois aussi, trois fois. Mais après, il y a ce mot que tout le monde a tendance à oublier, qui commence par un P, qui finit par un R, la pudeur. T'as pas envie de te mettre à poil systématiquement tout le temps, systématiquement chaque soir. En plus de ça, il faut que tu le fasses avec certaines conditions, dans un certain contexte. Il faut que tu le fasses avec le sourire. Il faut que tu sois dispo. Tu passes toute une journée dans le froid, tu arrives le soir, tu es accueilli à Hiver Solidaire jusqu'au lendemain, mais tu ne peux pas aller te reposer dans ta chambre. Il faut que tu sois présent au dîner, que tu fasses ton numéro de SDF reconnaissant, qui tend la main. Merci madame, vous êtes bien gentille avec moi madame, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et puis après, on t'autorise à aller te coucher. Si jamais tu transgresses ce que j'ai fait, parce que j'en ai eu vite marre, là tu passes pour le mouton noir. Et là, dans ce contexte-là, pour généraliser un petit peu, parce que je raconte ça à détail dans le bouquin, pour résumer ça, on en revient, si tu veux, à ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'on est obligé de jouer un numéro. On est obligé, si tu veux, de correspondre à l'imagerie d'Épinal. Là, c'est l'exemple typique de ce que je disais au début de l'interview. Les mentalités évoluent moins vite que la société. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont à la rue. Mais moi, j'étais un ovni pour eux. Parce qu'on était 6 personnes accueillies dans le programme de la Trinité et les 5 autres étaient totalement ravagés. Et moi, je faisais tâche. Ouais. Ils ne comprenaient pas que j'arrive à tenir un discours, que j'arrive à exprimer 2 idées, que je puisse parler anglais. Ils me regardaient, ils se demandaient « Mais qui c'est ce type ?» Ils ne croyaient même pas que j'étais SDF. Mmh. Ils étaient, si tu veux, plus à l'aise avec les 5 autres qui étaient là, qui avaient des problèmes d'alcool, qui étaient totalement abrutis, qui ne disaient pas un seul mot, qui étaient dociles, parce que la vie les avait complètement brisés. Et c'est ça qu'ils veulent. Il y a un formatage qui fait que tu dois correspondre à l'idée qu'ils ont. Sinon, tu entres en conflit avec eux et ça se passe très très mal. Et pour moi, ça s'est passé très 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 mal. Voilà. J'en laisse un petit peu pour le bouquin, donc je te dis pas la suite, mais
non, mais
si tu veux, c'est ce contexte-là.
Merci Manu. Excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Ouais, mais merci Manu de ta franchise, parce qu'en fait, c'est de leur embarras d'entendre ça et autant de franchises. Et pourtant, moi, j'ai fait un peu de hiver solidaire et j'espère que les bénévoles que j'ai croisés là-bas écouteront ça et sauront le recevoir. Mais parce que c'est génial ta franchise et la simplicité. Et c'est ça qui est fou avec Manu, et je comprends que... Enfin, je comprends. En effet, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis que certains comprennent pas, parce qu'en effet, on a trop cette image d'Épinal du SDF qui est éclaté et qui est dans un état de santé lamentable, alors qu'il y a énormément de gens qui sont comme toi, à la rue, alors que tu t'exprimes d'une façon qui est exceptionnelle, tu as des références... alors là, peut-être que on a peut-être pas parler de tout ça, mais des références de culture française qui sont incroyables et évidemment une facilité d'élocution qui est remarquable. Et donc c'est un vrai plaisir de parler avec Emmanuel, mais en effet certains ont dû être déroutés comme tu l'as dit de pas trouver. Ouais, c'est dur quand tu dis ouais la docilité, la vie les a éclatés au sol. Ouais,
et tu vois,
c'est violent, hein, mais j'imagine que c'est la réalité. C'est
et je précise bien, tu sais aussi un truc, c'est que moi je suis chrétien, je suis catholique. Je crois en Dieu, j'ai la foi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je te dis ça dans un but précis, c'est que je ne voudrais pas qu'on puisse me taxer, si tu veux, de faire un anticléricalisme basique, qu'on puisse me taxer, si tu veux, de faire une attaque de la religion chrétienne ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une attaque, parce qu'au contraire, je te dis, moi, je suis, j'ai la foi, et si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas pu tenir. J'aurais pas pu tenir, si tu veux, il faut croire en quelque chose, il faut te dire qu'il y a quelque chose au-dessus de toi pour tenir dans ce que j'ai vécu dans 18 mois, durant 18 mois, et ce que je vois autour de moi. C'est pas ça le problème. Et encore une fois, je te dis, j'ai l'immense respect pour tous ceux qui donnent de leur temps. Tiens, un autre exemple, regarde. On parlait de la Trinité, c'est là que ça s'est passé. Ils font un truc fabuleux à midi. Il y a un repas gratuit. Tous les jours, du lundi au vendredi, il y a une soupe gratuite. Il faut se présenter à midi. À midi et quart, ils te laissent rentrer. Et c'est là d'ailleurs que j'ai appris qu'il y avait hiver solidaire.
D'accord.
Que dans la crypte, ça se passait. Mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps, qui arrivent le matin, qui font la cuisine, qui préparent un super repas. Ils sont désintéressés, ils sont hyper souriants avec nous, ils font le maximum. Donc tu vois, je suis reconnaissant. Je suis content, si tu veux, qu'il y ait cette interaction qui a... à l'origine, notre foi chrétienne, la religion chrétienne, tu vois, je suis hyper content de ça. C'est pas une critique basique, débile, pure et simple que je fais. C'est un constat. C'est pour ça, en fait, que je m'en suis trouvé extrêmement déçu. Je m'en suis trouvé vraiment, vraiment atterré, parce que je me suis dit, est-ce que c'est ça vraiment à l'heure actuelle l'Église en 2023? Parce qu'à l'origine de tout ça, il y a un programme. C'est pas les gens qu'on voyait, parce que eux, ceux qui nous considéraient un petit peu comme des bêtes de foire, eux, ils faisaient que reproduire, si tu veux, une attitude, une politique qui venait de plus haut, ceux qui avaient créé ce programme. C'est dans ce sens-là, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai des questions et pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Ouais. Et la petite histoire, c'est que je les ai posées, ces questions. Et dans le bouquin, j'explique comment ça s'est passé après. Ouais. Parce que je voulais avoir des réponses, mais je ne les ai pas eues. Quoi.
Ouais, mais je pense qu'ils ont... C'est...
Moi, je suis le mouton noir.
C'est une bonne intention, mais l'organisation du schéma hiver solidaire avec les repas et la répétition. Alors après, moi, je connais pas exactement le fonctionnement du truc, mais oui, il y a quelque chose qui est pas forcément adapté. Mais par contre, je te rejoins largement sur l'anticléricalisme, au sens, faut être exigeant avec le clergé. Il fait aussi n'importe quoi. En fait, les Français sont très papistes et sont très soumis au clergé. Mais alors, je dis pas qu'il faut être désobéissant et effronté gratuitement, mais il y a une espèce de moi, je le vois dans les milieux catholiques. Il y a une espèce de d'attitude béate face parfois aux prêtres, face aux évêques. Les évêques ont des attitudes criminelles pour certains. Ils ont charge d'âme dans l'enseignement catholique, dans toute la France, dans l'enseignement diocésain. Ils n'en font rien. Les écoles privées, je ne sais pas si tu en as fréquenté, moi j'en ai fréquenté, les écoles privées ne valent pas mieux que certaines écoles publiques au niveau de l'enseignement, de la morale, de la rigueur et de la foi catholique.
Et pourtant, à l'heure actuelle, c'est la bouée de sauvetage de l'éducation nationale. S'ils ne pouvaient pas se baser sur les lycées et les écoles d'enseignement catholique, ces lycées privés, ils seraient perdus. Parce que plus aucun parent ne veut mettre son enfant dans les collèges d'État, parce qu'ils savent que c'est le racket, la violence, et surtout, ils n'apprennent rien.
Ouais, donc les évêques auraient encore plus un moyen de pression Parce que l'école privée était menacée sous Mitterrand. Au début de Mitterrand, j'ai dû connaître les grandes manifestations pour Exactement. L'école libre. Ouais. Mais ils auraient un moyen de pression énorme pour aller plus loin dans leur enseignement ou quoi, et il n'en faut rien. Et tout cet esprit d'aggiornamento, d'accoutumance au monde, au sens où le Christ le disait, le monde, c'est-à-dire cette vie enfin loin de ses principes, et un esprit de mondanité, de conformisme, cet esprit dans lequel sont beaucoup d'évêques, parce que certains sont formidables, hein, mais ça découle sur l'Église, et trop de fidèles sont pas assez exigeants avec les clercs, et j'espère que ça arrivera à l'oreille de ceux qui ont inventé Hiver solidaire, qui est peut-être un programme créé en dehors de l'Église d'ailleurs, hein, pas spécialement par l'Église, mais qui est appliqué par les paroisses, je sais pas. Mais j'espère que ça arrivera à leurs oreilles et que.
Ouais. C'est un programme de l'archevêché. Moi, si tu veux, l'impression que j'ai eue, c'est pas pour rien, si tu veux, que des religions comme l'islam s'implantent. Parce que, si tu veux, il y a encore le contexte de la foi qui est très fort dans une religion comme l'islam. Alors qu'en fait, quand tu regardes la religion chrétienne, t'as l'impression qu'il y a une espèce de sommeil administratif qui est tombé dessus. Une chape administrative. C'est des administrateurs maintenant.
Ouais.
Si tu veux, tu as la pression, et je dis ça encore une fois, sans volonté d'attaque gratuite, mais tu as un peu l'impression que, si tu veux, les ouléments, entre guillemets, de la religion catholique, si tu veux, alors que c'est une barbarie de dire ça, mais un barbarisme de dire ça, mais tu as l'impression, si tu veux, que les dignitaires de l'Église catholique gèrent ça comme un business. De manière popotine, tu sais, ronflante, tranquillou. Ils ne voient pas l'urgence. Ouais. Ils ne voient pas que le culte se désagrège. Ils ne voient pas qu'on saccage par an 1000 à 1500 églises, qu'elles vont disparaître de plus en plus, alors que c'est ça qui fait l'identité chrétienne de la France, et donc son identité à la base.
On ne remplit pas ces églises déjà, en plus.
Donc tout ça, si tu veux, c'est en train de se déliter, et le comportement de l'Église à l'heure actuelle, ça me fait surtout penser à une administration, à l'administration d'une entreprise quelconque. Je ne vois pas, si tu veux, en tous les cas, pour résumer, de mon point de vue, si tu veux, de chrétien lambda, je suis loin des années de mon enfance où l'Église avait un autre visage, une autre apparence. Mmh. Et à l'époque, et c'est pour ça, si tu veux, qu'Hiver solidaire m'a causé une tellement grande déception, que moi, pour moi, même sans pratiquer, c'est-à-dire que j'ai la foi, mais je me rends pas, je serais menteur de dire que je vais à l'Église tous les dimanches. Mais si tu veux, j'avais une image qui était ancrée en moi, de par mes origines, de par mon éducation, je voyais l'image d'une certaine façon. Mes parents m'ont toujours dit, si t'as un problème dans la vie, tourne-toi vers l'Église. Si t'as vraiment un moment donné où t'es vraiment borderline, où il se passe quelque chose de trash, essaye de trouver un peu de réconfort, c'est ta bouée de sauvetage. Et là, avec les paysans de Hiver solitaire, je me suis aperçu que c'était une erreur totale. L'Église avait changé de visage, mais de manière fondamentale, mais hallucinante. Et c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que même si la France n'est plus que catholique et chrétienne depuis longtemps, malgré tout, ils occupent encore une place importante. Et si, comme l'État se décharge du caritatif, eux décident de s'en occuper, ils devraient prendre les choses de manière différente, avec la foi, autrement qu'avec un programme, je dirais, un peu sectaire, parce que c'est Hiver solidaire, l'impression que ça m'a donné, un programme avec des tendances sectaires. Tu corresponds à un format, tu n'es pas dans le format, tu dégages. C'est une politique sectaire. Et tout groupe, tu le sais, par définition, partir de trois individus, il a des tendances à devenir sectaire. L'un qui essaye de conditionner l'autre, et les deux autres, etc. Tu as des tendances sectaires qui se dégagent très très vite dans n'importe quel regroupement humain. Et là, c'est hyper visible. Et moi, je me dis qu'on est bien gentil de tendre la main aux autres. Mais c'est pas si innocent que ça, quoi. Et énorme déception, quoi.
Ouais. Et quand tu dis que l'Église, l'image de l'Église que tu avais avait totalement modifié, notamment Hiver solidaire, qu'est-ce qui avait changé?
C'est ça, c'est-à-dire que...
Fonctionnement sectaire.
Voilà, d'accord. C'est que cette dérive sectaire, et puis tu sais le fait que... Comment t'expliquer? Il y a une envie de formater et non pas de tendre la main. On n'a pas envie que tu t'exprimes, que tu sois à même de redevenir toi-même, on a envie que tu rentres dans un cadre. Et ça, c'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, on ne me l'a jamais enseigné comme ça. Moi, tout ce que j'ai appris en étant gosse, en étant minot, en ayant eu, en voyant les exemples du catholicisme autour de moi, c'était le fait d'aider l'individu à s'exprimer. Tu sais, les siècles des Lumières, les philosophes étaient croyants. Voltaire et compagnie, ils essayent de nous faire croire qu'ils étaient des anticléricaux, mais c'est faux. Ils avaient tous, si tu veux, la foi. Mmh. Et la philosophie se base aussi... Saint Augustin, c'est pas rien. Saint Augustin, c'est un grand philosophe, mais c'est aussi, avant tout, c'est un religieux. Et ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie de l'homme, elle passe aussi par la foi. Et tu peux très bien tendre la main à l'être humain, le faire aboutir le faire s'accomplir sans devenir sectaire. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train de se passer. On oublie l'homme, on oublie de tendre la main à l'homme, on a simplement envie de le formater. Bon, ben voilà. Ben, c'est l'envie du siècle, hein. On a envie que l'homme rentre dans un cadre, hein. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, on a envie de nous faire rentrer dans un cadre. Et moi, c'est ce que je reproche à un cadre comme Hiver Solidaire, c'est ce que je reproche à ce qui s'est passé. Voilà.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas pour démoraliser les bénévoles de ce genre d'association, hein. C'était, je pense que c'est c'est l'idée de ce format de programme, etc. Mais
oui, attends, c'est juste
continuer à vous engager. Et tout,
mon voilà. Avis, voilà, ouais. C'est ça. Je tiens aussi à préciser, voilà, exactement.
Ils sont parfois un peu susceptibles.
Tu dis quoi?
Ils sont un peu susceptibles.
Oui, ouais, exactement. Ouais. Non.
Ce que malheureusement, voilà, Emmanuel.
Ce que je veux juste dire, voilà, c'est que je veux surtout pas ne faire aucun prosélytisme. C'est-à-dire que je manifeste juste mon ressenti, mon vécu. C'est donc forcément hyper subjectif. Je ne tire aucune conclusion, aucune règle. Et je veux surtout influencer personne. Je parle simplement d'un ressenti, d'un vécu. Donc forcément, je me trompe. Et d'autres gens me diront, mais non, Manu, tu déconnes, tu te trompes et tout. Et encore une fois, je veux insister sur le fait qu'il y a des gens qui ont profité d'Hiver Solidaire. Il y a des accueillis, des gens comme moi dans la rue, qui finalement ils s'y sont bien trouvés, on est entièrement d'accord. Moi, mon seul souci, c'est que ça devrait être open à tout le monde, qui n'est pas un cadre à schéma type, que n'importe qui puisse être accueilli et y trouver, son bonheur, qu'il ne soit pas restrictif et qu'à partir du moment où tu ne corresponds pas à une image donnée, ben, on te rejette et on te cadenasse.
Ouais.
C'est ça le problème, ouais. Tu vois. Il me semblait que moi, qu'une religion à la base, elle était ouverte.
Ouais.
Il me semble à la limite qu'un culte, quel qu'il soit, il est censé accueillir, ou je me trompe?
Non, t'as raison, en général les différentes religions essaient de recruter de nouveaux membres.
On est bien d'accord.
Bon, après certains ont des critères plus fermés que d'autres, mais c'est bien légitime. Toi tu te vois, c'est quoi la suite pour toi, Manuel? Tu te vois où prochainement? Comment tu...
C'est marrant. Quand tu poses cette phrase-là, je pense à un film avec De Niro qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire, où De Niro, il s'emmerde, il a la retraite, il a 78 ans et il prend un boulot et il est en face de lui d'un type qui a une vingtaine d'années et c'est un recruteur. Et tu sais que tous les recruteurs, à chaque fois, ils posent la question où tu te vois dans 10 ans.
Ouais, ouais.
Et De Niro, il a 78 ans et le mec, il lui dit, sans lever son nez de la feuille, il dit à De Niro, vous voyez dans 10 ans? Alors De Niro lui répond, bah, entre quatre planches, mort. Ouais. Donc en fait, si tu veux, non mais blague à part, sans déconner.
Non, mais en plus, on m'a posé ce genre de questions.
Ouais, où tu te vois dans 10 ans? J'adore cette phrase.
J'avais jamais.
Où tu te vois dans 10 ans? Et toi, connard, où tu te vois dans 10 ans? J'en sais rien où je vais dans 10 ans.
C'est des types de.
Ils ont bateau, t'en sais rien.
Des questions formatées d'entretien qui sont
catastrophiques. Comment tu veux savoir où tu seras dans 10 ans? Je sais même pas où je serai demain. Ouais. Donc tu vois.
Mais toi, est-ce que tu as une idée à plus court terme de.
Non, à plus court terme.
Surtout, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc tu as la sortie de ce bouquin.
Ouais. Et puis, si tu veux, donc comme je te disais tout à l'heure, essayer.
Oui, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure.
Voilà, ouais. De profiter, si tu veux, du maximum de contacts.
Reconnecter avec le milieu.
Pour reconnecter d'une façon ou d'une autre avec le milieu ou autre chose. Mais pour dire la vérité, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis rattrapé aussi par le temps. J'ai 57 balais, j'ai pas une santé qui est hyper performante. Et je peux te dire qu'à l'heure actuelle, avec un profil comme ça, quand tu vois que tu as déjà des jeunes de 20, 30 ans qui ont du mal à trouver du boulot, moi, personne ne se bouscule pour me trouver du boulot, tu vois, ou m'en proposer. Donc, je suis lucide par rapport à ça. Il faut que je contourne l'obstacle. Et donc, à l'heure actuelle, je navigue à vue. Je suis sur une mer couverte de brouillard, j'ai ma lanterne, je suis sur ma barque et j'essaye de voir où j'arrive. Et j'essaye d'éviter les rochers, les écueils. Mais déjà, si tu veux, et j'en reviens toujours à la même chose comme un leitmotiv, il y a ce coup de main formidable que vous m'avez apporté. Et grâce à ça, ça me permet déjà d'être optimiste. Et ça, c'est énorme. Parce que tu me diras, être optimiste, c'est pas encore avoir des projets bien définis. Mais j'ai le bouquin, j'ai la pêche par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi. Et ça, c'est déjà énorme. C'est déjà deux bases sur lesquelles je peux poser les pieds qui me permettent d'avancer. C'est déjà énorme. Après, bon, ben voilà, je vais étape par étape.
Ça marche.
Tu vois.
Ouais. Bon, bah écoute, on va conclure cet entretien, Emmanuel, ouais. si tu le veux bien.
Je t'en prie.
Merci encore de ta franchise pendant cet entretien, d'avoir raconté tout ça, de t'être livré, d'avoir divulgaché quelques extraits du livre.
Ouais.
Mais bon, si d'aventure t'avais une promo, tu t'en seras bien obligé. Mais bon, il est même pas encore édité. Donc merci à toi.
Merci à toi, Baudouin.
Si vous avez des tuyaux pour Emmanuel, je te redonne ton adresse email. Désolé, mais
non,
redonne ton email. Peut-être que des gens, si vous avez des choses concrètes, évidemment. Après, peut-être que tu es aussi ouvert aux messages de soutien
ouais,
et aux témoignages.
Pas de soucis, c'est yannlambrette@yahoo.fr, Yann avec un seul N, Lambrette, yannlambrette@yahoo.fr.
C'est un nom de scène ?
Ben en fait, Lambrette, tu veux que je te dise pourquoi ? Allez, allez, c'est un scoop.
Anecdote.
Personne ne l'a jamais. On me l'a demandé, mais je ne l'ai jamais raconté. Si tu veux, au départ, j'avais mon vrai nom, et mon vrai prénom et mon nom de famille dans mon adresse mail. C'était mon adresse mail. Et je me suis fait pirater un jour. Mmh. On m'a vidé mon ordinateur, on m'a mis dans une situation effroyable. Donc, j'étais obligé de me créer une autre adresse mail. Et on m'a demandé un nom. Lambrette, c'est quelqu'un dans ma famille. Parce que ma grand-mère avait un nom magnifique. Elle s'appelait Zélie Lambrette.
Zélie, ouais,
Zélie, c'est magnifique. Hein.
Ouais.
Donc, j'ai repris
ça revient à la mode.
C'est magnifique comme prénom. Donc, j'ai repris son nom de jeune fille, Lambrette. Et Yann, c'est très particulier, Y-A-N. Il y a un film que j'adore. C'est Le Gitan de Giovanni avec Alain Delon et Paul Meurice. Alain Delon joue un criminel, un gangster gitan très jeune qui joue, enfin non, à cette époque-là, il doit avoir pas loin de la quarantaine et vraiment un type borderline et tout. Et il a en face de lui la grande truanderie, mais à l'ancienne école, interprétée par Paul Meurice et il s'appelle Yann Kuck dans le film. K-U-C-K et son prénom c'est Yann, Y-A-N. Donc j'ai pris le Yann et j'ai associé Lambrette. Yann Lambrette, voilà, c'est tout.
Énorme. Ah ouais. Énorme. Mais par contre, Emmanuel, il faudrait vraiment que tu fasses des chroniques cinéma, quoi.
Volontiers.
Parce que t'en connais un rayon.
Mais si tu m'offres le créneau, volontiers.
Il faudrait, mais on refera un podcast sur le cinéma français.
Quand tu veux, mon gars, j'en ai quelques-unes. Parce que plus, avec ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu sur le temps en le vivant moi-même, il y a ce que je connais, ce que j'ai vécu moi-même en ayant bossé, quoi.
Et surtout, le cinéma français d'il y a, je dirais. Ouais, 30 ans, 30, 40 ans. Mmh. Parce que bon, aujourd'hui, on a des films qui sont un peu connus, qui sortent. Ouais. Mais tu vois, bon, et voilà, les Bac Nord, comment il s'appelle là, le film avec le sous-marin, là. Deux films avec des sous-marins.
Récemment ?
Ouais, récemment, il y avait le Chant des loups, que moi j'avais beaucoup aimé, et un autre, Boîte Noire.
D'accord.
Il y a des films français, mais on ne connaît pas ce cinéma français qui était caractéristique, parce que ça, c'est des films français, mais américanisés, il me semble.
Ouais, exactement. Bac Nord, cela étant, il est très bon.
Ouais.
Tu as vu Bac Nord ?
Ouais, je l'ai vu, bien sûr. Ouais.
Bac Nord, il est hyper bien fait.
Mais voilà, il y a pas mal de films qui sont top, mais peut-être un peu américanisés. Il y avait tout ce cinéma, et j'ai l'impression que tu as des grosses refs là-dedans. Un jour, il faudra en parler.
Carrément.
Parce que,
quand tu veux.
Parce que ça, c'était ta passion, c'est comme ça que
tu
es arrivé là-dedans.
Quand tu veux, quand tu veux. Absolument.
Génial. Génial. Bon, un immense merci, Emmanuel.
Merci à toi.
Donc, voilà, un épisode un peu long pour ce premier vrai épisode, cet entretien, mais je pense que ça vaut le coup. Partagez-le, n'hésitez pas à dire aux gens que même jusqu'à la fin de ce podcast, de ce balado, comme on dit au Québec, il y a des choses vraiment passionnantes racontées par Emmanuel. Donc voilà, on reste au courant, on reste en contact, Emmanuel, pour la sortie de ton livre. Keep in touch. On te trouve un éditeur, donc encore une fois, si vous êtes dans l'édition, n'hésitez pas à rembobiner et reprenez l'email d'Emmanuel. Je me permets de dire que la cagnotte est toujours en ligne. Mais voilà, je fais la promo jusqu'au bout. Hein.
Merci à toi, mon ami.
C'est pas trop. Et voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à partager le podcast, à le diffuser, à m'envoyer un message sur Instagram. Pour dire ce que vous en avez pensé, alors c'est un entretien fleuve, mais je pense qu'avec Emmanuel, ça valait largement le coup, et je pense qu'on aurait pu en faire un de 3 heures s'il racontait un quart des anecdotes qu'il y a dans son bouquin. donc voilà, mettez 5 étoiles au podcast et envoyez-moi vos retours. Merci à tous. Je ne sais pas encore de quoi sera fait le prochain épisode, mais voilà. Salut Manu et salut à tous.
Salut Baudouin.
Merci.